Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
4h26, bon réveil à tous, bienvenue sur RMC, je dis bienvenue mais je sais que certains sont là depuis un petit bout de temps, ceux qui bossent la nuit, les courageux qui sont déjà dehors, ceux qui rentrent du boulot, ceux qui viennent de se réveiller aussi, mais oui, on attaque la journée avec vous le matin dès 4h26, hein, on dit souvent 4h30, mais oui, on est là dès 4h26, le 32-16 est officiellement ouvert, j'ai l'appli RMC sous les yeux, vos messages qui s'affichent sur Direct Studio et j'ai en face de moi Anaïs Castagna évidemment,
bonjour. Oui, Anaïs. Bonjour Charles et bonjour à tous.
Vous l'entendez, le bonjour d'Anaïs, toujours plus dynamique le vendredi, bizarrement. Géraldine Demory, bonjour.
Salut tout le monde.
Est-ce que ce sera un beau week-end Géraldine?
Beau, peut-être pas trop froid, c'est déjà ça.
Je parlais pas du ciel, hein, je parlais de ton week-end Géraldine.
Oui, bien sûr, c'est un beau mon week-end.
Elle répond automatiquement météo quand on lui demande comment elle va.
Professionnelle.
Voilà, professionnelle jusqu'au bout. On va discuter avec vous évidemment ce matin au 32-16, on va vous donner toutes les infos et évidemment ce qui vous préoccupe c'est la réforme des retraites. On écoutera Elisabeth Borne qui était hier soir sur France 2, bon pas de grande annonce, hein, elle reste inflexible sur le fond. Mais l'actu c'est aussi les vacances et oui ça débute ce soir hein, pour la zone A et puis ensuite bah, toutes les semaines, hein, zone B la semaine prochaine, zone C ensuite et... avec une menace sur ces vacances, la menace des grèves SNCF. Il y a déjà un préavis le 7, en discussion pour le 8, pour le 11. Y aura-t-il des trains pendant les vacances? Et surtout, cette question ce matin, faut-il limiter, restreindre, mieux encadrer le droit de grève dans les transports, notamment pendant les vacances,
hein. Selon les infos du service politique d'RMC, le gouvernement voudrait demander aux grévistes de se déclarer plus tôt. Aujourd'hui, ils doivent le faire au plus tard 48 heures avant la grève. Demain, ça pourrait être plus longtemps à l'avance. Une députée non inscrite de Vendée veut même aller plus loin que ça. Véronique Besse vient de déposer une proposition de loi pour que les grèves soient interdites dans les transports pendant les vacances scolaires, comme en Italie au final.
Oui, il y a plusieurs dizaines de jours où il est interdit de faire grève dans les transports en Italie. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose en France? Limiter en fait la nuisance des grèves. Je vous pose la question autour de la table. Anaïs, Géraldine, vous estimez qu'une grève, bah non, c'est fait pour bloquer au maximum et donc il faut laisser les cheminots faire... Ok, bon bah pour Anaïs c'est clair, pas question de toucher au droit de grève, donc 48 heures à l'avance pour se déclarer, c'est suffisant, pas besoin d'aller plus loin.
Je suis pas sûr que ça change grand chose, même si c'est...
De leur demander 72 heures à l'avance, ouais. Bah les syndicats sont contre, ils disent... l'argument c'est que 72 heures à l'avance, bah, ça donnerait plus de temps à la direction de la SNCF pour prévenir les voyageurs, pour organiser un service minimum. Mais les syndicats disent, bah oui, mais ça serait aussi une manière de casser la grève, peut-être de mettre des cadres de la SNCF pour conduire les trains, par exemple. Bref, est-ce que c'est une manière de restreindre le droit de grève? Je sais pas ce qu'en pense Géraldine.
On prévient un peu plus tôt, c'est toujours mieux quand même pour pouvoir s'organiser. Hein. Je suis pas sûre qu'effectivement ça change grand-chose. Mais...
Alors, est-ce qu'il faudrait carrément interdire de faire grève pendant les vacances quand on bosse dans les services de transport
Après, on sait très bien que si ça bloque pas, ça n'a pas beaucoup d'effet.
D'accord, donc toutes les deux, vous êtes pour les grèves qui bloquent.
Je dis pas que je suis pour, dites-nous. Mais bon, c'est... Voilà.
D'accord, j'ai bien compris, Géraldine. Mais dites-nous, vous, au 32-16, que vous en pensez. Tiens, notamment si vous êtes cheminot, je sais qu'il y a des cheminots qui se lèvent tôt, qui nous écoutent. Venez nous dire ce que vous en pensez ce matin, venez témoigner au 32-16. Et puis tout simplement, en tant qu'usager, même en tant que citoyen, est-ce qu'il faut toucher au droit de grève, en tout cas le limiter dans les transports, limiter en fait la nuisance des grèves? Vous venez nous le dire ce matin au 32-16 ou sur l'appli RMC, hein, sur Direct Studio. Vous allez sur l'onglet Direct Studio, vous nous envoyez un petit message pour nous saluer. De bon matin. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Rémi, Ludo, Jérémy, Guillaume. Youpi, c'est vendredi, nous écrit Guillaume. Momo est là aussi. Bref, les fidèles sont levés tôt, même si pour Ludo, la journée est difficile. Je suis dégoûté de la blessure de notre Kiki national, nous dit Ludo. Oui, on va y revenir dans un instant. On est tous dégoûtés. Toute la France, j'en suis sûr, est dégoûtée.
Et puis, on n'oublie pas le reste du programme. Il y a beaucoup de choses ce matin dans mon choix. À 5h10, je vais vous parler des influenceurs. Bon plan, ces influenceurs qui passent leur temps dans les magasins de hard discount à la recherche des bonnes affaires et des promotions pour vous permettre de faire face à l'inflation. Ça cartonne sur les réseaux sociaux, on le verra. On va aussi sourire, évidemment, avec Arnaud Demange, retrouver Anthony Morel pour C'est déjà demain, Manu Le Chypre pour l'économie, et puis Thibaut Texer, la Story Sport à 6h20 sur RMC et RMC Story. Oui.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 5h20. Bon réveil à tous. Bon courage si vous êtes déjà dehors, déjà au boulot. Cette question ce matin sur RMC, faut-il encadrer le droit de grève dans les transports, notamment pendant les vacances scolaires?
C'est la question du jour sur RMC.
Mesdames, messieurs, aujourd'hui, un arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF perturbe la circulation des trains. Merci de votre compréhension.
Les vacances scolaires débutent ce soir pour la zone A, avec une menace qui pèse sur ceux qui comptent prendre le train. Aurons-nous des trains pendant ces vacances d'hiver? Vous le savez, les cheminots sont très engagés dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Tous les syndicats de la SNCF ont déjà déposé un préavis de grève pour le mardi 7, mardi prochain, et réfléchissent à en faire de même le mercredi 8, voire le samedi 11, jour de départ en vacances.
Et dans ce contexte, le gouvernement voudrait encadrer davantage le droit de grève dans les transports pour tenter de limiter les perturbations, comme l'a expliqué le ministre des Transports Clément Beaune devant le Sénat.
Nous devons, je crois, agir avec à chaque fois deux orientations extrêmement claires. D'abord, le respect évidemment de nos grands principes, notamment le droit de grève, qui, vous le savez, est inscrit et garanti par notre Constitution. Et puis, bien sûr, de la manière la plus concrète et pratique possible, l'intérêt des usagers. Nous pouvons, là encore, réfléchir à la question des délais de prévenance, qui sont aujourd'hui, ça a été instauré dans la loi de 2007, de 48 heures, qui pourraient être débattus, et nous pourrions travailler collectivement à réfléchir à leur extension.
Selon les infos du service politique d'RMC, le gouvernement voudrait demander aux grévistes de se déclarer plus tôt. Aujourd'hui, ils doivent le faire au plus tard 48 heures avant la grève. Demain, ce serait plus longtemps à l'avance pour permettre aux voyageurs et à la direction de la SNCF de mieux s'organiser. Mais cette idée fait déjà bondir les syndicats de cheminots. Écoutez la réaction d'Anas Kazib, cheminot et membre du syndicat Sudrail.
Pourquoi on veut nous limiter? On veut nous contraindre en fait à devoir nous déclarer avant. Ça n'a aucun sens. C'est une atteinte profonde au droit de grève. Il vise ni plus ni moins à ce que la grève ne soit plus existante, à ce que toutes les périodes qui bloquent et qui font mal au patronat n'existent plus. Et que ce n'est pas les délais de prévenance qui vont empêcher les gens de lutter. Et moi je le dis, si le gouvernement il entend passer en force, qu'il le sache, on lui répondra avec la même force et la même détermination.
Voilà, vous entendez Anas Kazib de Sudrail, très remonté à l'idée de devoir se déclarer gréviste un peu plus tôt. Pourtant, certains voudraient aller encore plus loin, Anaïs, pour limiter les nuisances et les perturbations dans les transports.
Une députée non inscrite de Vendée, Véronique Besse, vient de déposer une proposition de loi pour que les grèves soient interdites pendant les vacances scolaires dans les transports. Proposition qu'elle va venir défendre, tiens, ce matin, dans un poli de matin sur RMC et RMC Story, à 7h40. Elle voudrait s'inspirer de l'Italie, où les grèves sont désormais interdites à certaines périodes de l'année, Noël, Pâques, la Toussaint et au début des vacances d'été. C'est ce que prévoit la loi italienne. Et si elle n'est pas respectée, des amendes et des sanctions financières peuvent être infligées aux grévistes et aux syndicats.
Voilà, l'Italie qui va très loin. Il y a plusieurs dizaines de jours par an où il est interdit tout simplement de faire grève dans les transports pour ne pas bloquer les usagers pendant les périodes de fête, pendant les vacances scolaires. Est-ce qu'il faut aller jusque-là en France? Ou en tout cas, comme le propose le gouvernement, comme y réfléchit le gouvernement, obliger les grévistes de la SNCF à se déclarer grévistes un peu plus tôt, plutôt que 48 heures, pourquoi pas 72 heures à l'avance, pour mieux s'organiser, pour mieux prévenir les usagers, prévoir un service minimum. Tiens, on va poser la question à Arnaud, qui nous a appelé au 32-16 depuis la Vendée, c'est ça? Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour.
Et
bonjour.
Arnaud, justement, vous êtes cheminot, en tout cas agent SNCF, c'est ça?
C'est bien ça, je suis agent SNCF, je travaille de nuit, là, je viens juste de finir mon service.
Ah bah voilà, un courageux de la SNCF qui bosse la nuit pour nous permettre d'avoir des trains la journée, si je comprends bien Arnaud, c'est ça?
C'est ça, en fait, je travaille sur les travaux de l'infrastructure, en fait.
Et bah d'abord, bravo, parce que vous êtes un courageux, levé tôt ou couché tard, comme vous voulez, Arnaud. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez première question, est-ce que vous avez été gréviste, là, c'est lors des dernières journées, le 19, le 31, est-ce que vous le serez la semaine prochaine?
Oui, bien sûr, j'ai fait grève parce qu'aujourd'hui, on dit tous, bon, la SNCF, c'est des privilégiés, mais faut pas oublier, quand on est rentré il y a quelques années à la SNCF, on devait avoir une retraite, on va dire, à taux plein à 57 ans. Maintenant, en deux réformes, on est passé, comme tout le monde, à 62 ans. Et puis, aujourd'hui, on demande à décaler encore l'âge de retraite. Que ce soit des cheminots ou autres.
Vous avez quel âge, Arnaud, et ça fait combien de temps que vous êtes à la SNCF?
J'ai 36 ans et ça fait 15 ans.
D'accord. Et 15 ans, ça veut dire que vous êtes concerné par ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes passé au nouveau système de retraite ou est-ce que vous avez conservé des acquis que vous aviez quand vous êtes entré à la SNCF?
Au statut du cheminot, oui.
C'est-à-dire que pour vous, ça n'a pas bougé avec les histoires de clause du grand-père?
Pour le moment, ça n'a pas bougé. Maintenant, aujourd'hui, dans le détail exactement, je ne sais pas comment ça se passe parce que...
Oui, mais aujourd'hui, avec la clause du grand-père, à quel âge vous êtes censé partir, vous, en retraite parce que vous conservez, vous, les acquis d'avant les précédentes réformes?
Comme tout le monde aujourd'hui, maintenant, ça sera 62 ans pour le moment.
Et ça vous paraît trop tard, en tout cas pas jouable de bosser jusqu'à 62 ans?
C'est pas que c'est pas jouable, ça dépend déjà du métier. Moi, en tant qu'agent SNCF, vous savez, je fais plus de 100 nuits dans l'année. Mm-hmm. On travaille que de nuit toute l'année, à des heures décalées. C'est un rythme de vie à prendre. Aujourd'hui, bon, après, attention, il y a des métiers qui ont plus de facilité pour partir à plus tard dans les âges, mais je me vois mal à 64 ans travailler derrière un train ou à bouger du ballast et tout ça.
Bien sûr, même si pour vous c'est 62 ans, on va le rappeler, Arnaud, parce que c'est parfois ce qui remonte beaucoup dans les messages. C'est à la SNCF, vous n'êtes pas forcément les plus à plaindre sur ces questions de retraite, vous partez plus tôt que les autres.
Ben, on part plus tôt que les autres, mais aussi on cotise beaucoup plus que les autres.
Pourquoi ?
C'est-à-dire ?
Parce qu'en fait, l'indice de points au niveau de la cotisation est plus élevé à la SNCF.
Mais ça, c'est vrai, en plus, Arnaud, parce que j'aimerais le rappeler. C'est-à-dire qu'à la SNCF, bah, vous n'êtes pas forcément les mieux payés du monde. Ça fait un peu partie du deal quand on entre à la SNCF. On n'a pas un salaire mirobolant, mais on a des avantages sur la retraite, etc.
Il ne faut surtout pas oublier, parce qu'aujourd'hui, on entend tout dire que les cheminots sont très bien payés. Moi, aujourd'hui, à 15 ans de SNCF, je suis payé mon traitement de base en dessous le SMIC. Hein.
Oui, oui. Alors, il y a des primes et tout pour compenser, pour être au-dessus
exactement,
du SMIC.
Exactement, mais les primes, aujourd'hui, ça compte pas.
Mais ça compte pas, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est très intéressant, Arnaud, de remettre les choses dans leur contexte. Mais alors, ensuite, rentrons dans le dur, Arnaud. La grève, vous nous dites, voilà, j'ai déjà fait grève, je vais refaire grève là pendant les vacances scolaires. Hein, mardi prochain, c'est les vacances. Il y a aussi des menaces sur le mercredi, voire le samedi, un jour de grand départ en vacances. Arnaud, est-ce que vous comprenez que les usagers et que le gouvernement disent il faudrait peut-être s'organiser un peu mieux du côté de la SNCF, limiter ce droit de grève des cheminots, en tout cas leur pouvoir de nuisance en les obligeant à déclarer gréviste plus tôt.
Alors déjà, limiter le droit de grève des cheminots, déjà mettre tout le monde sur le même piédestal au droit de grève du cheminot, parce qu'en fait, suivant le service de la SNCF, on n'est pas soumis au même droit de grève. C'est-à-dire qu'un conducteur de train, aujourd'hui, doit avertir 48 heures son service pour faire un droit de grève. Nous, aujourd'hui, aux infrastructures, on peut faire grève au moment présent. On n'a pas besoin de prévenir 48 heures avant. Hein.
Ah bah alors, pourtant, ça pourrait peut-être faciliter les choses dans l'organisation des services. Mais est-ce que vous comprenez, Arnaud, que les usagers et que le gouvernement aient envie de limiter la nuisance du droit de grève ?
Oui, je peux comprendre. Maintenant, aujourd'hui, le droit de grève pour la réforme des retraites, et je parle bien que pour la réforme des retraites, je ne parle pas de ce qui s'est passé avant ou autre pour les fêtes de fin d'année. Je trouve que aujourd'hui, c'est tout le monde, on doit se battre dans la rue pour pas pousser cet âge légal à 64 ans.
Non, mais ça, sur le fond, on entend tout à fait votre position, Arnaud. Nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est de savoir comment les cheminots accueillent cette idée de. Il y a même cette députée là qui viendra d'ailleurs, cette députée de Vendée, du côté de chez vous, qui va venir sur RMC ce matin nous dire, moi, j'ai déposé un texte à l'Assemblée pour interdire aux cheminots de faire grève sur les périodes de vacances scolaires.
Oui, bah en fait, on interdit le droit de grève carrément en fait aujourd'hui dans. Sur l'État, et un de ces jours, on dira, ben, vous pouvez plus faire grève de telle période à telle période. Et ça, moi, je suis pas d'accord, en fait.
Oui, pas touche à notre droit de grève, c'est ce que vous nous dites ce matin, Arnaud, en tant qu'agent SNCF. Ben, on va voir si tout le monde est d'accord ou pas. Est-ce qu'il faut, sanctuariser, laisser les cheminots faire grève et du coup, leur laisser ce pouvoir de nuisance? Parce que c'est clairement ce qui se passe aussi, hein, avec les transports quand on peut plus se déplacer pendant les vacances. Est-ce que justement, parce que c'est le fond aussi, Arnaud, est-ce qu'une grève, c'est fait pour bloquer, en fait, ou est-ce qu'une grève.
Exactement. Voilà, le but de la grève, c'est pas fait pour danser.
Voilà, c'est pas fait pour danser, mais pour bloquer. Merci Arnaud d'être venu témoigner ce matin, d'être venu ouvrir le bal au 32-16 en tant qu'agent SNCF. On va continuer à en débattre avec vous au 32-16. Venez réagir, d'accord ou pas avec ce qu'a dit Arnaud. Merci d'être venu témoigner. Je sais pas si on vous souhaite bonne nuit ou bonne journée, comme vous voulez, Arnaud.
Comme vous voulez.
Eh ben les deux. Allez, on vous souhaite tout.
Bon
week-end aussi sur RMC, évidemment. Merci Arnaud. D'accord ou pas avec ce que vient de dire Arnaud, faut-il restreindre le droit de grève des cheminots? Vous venez nous le dire ce matin au 32-16. On va y revenir avec vous. Tiens, je vois Cyril qui nous appelle. Tiens, on va l'accueillir tout de suite au 32-16. C'est dans une minute sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
14h51 sur RMC. Si vous venez de vous réveiller, on fait le point sur les trois infos à la une de l'actualité avec Anaïs Castagna.
Elisabeth Borne a défendu sa réforme des retraites hier sur France 2. Elle se dit à l'écoute, mais assure que sa réforme se fera avec quelques ajustements possibles. La première ministre se dit notamment favorable à des sanctions pour les entreprises qui négligent l'emploi des seniors. Le corps de CM, jeune lycéenne de 18 ans, scolarisée dans le Gard, retrouvée hier dans un bois après les aveux du suspect. Une dispute serait à l'origine du drame. On y revient dans le journal de 5h. Et puis le début des vacances scolaires pour la zone A, malgré l'inflation et les problèmes de pouvoir d'achat. L'école du ski français enregistre déjà une hausse de 18% d'inscriptions par rapport à l'an dernier. Chiffre qu'on vous révèle ce matin sur RMC.
Et à 14h52 sur RMC, c'est l'heure à laquelle toute la bande va s'installer autour de la table. C'est l'heure des histoires qui vont vous faire sourire en ce vendredi matin.
RMC, les histoires de Charles Matin.
Avec Anthony, avec Quentin Dubois qui nous rejoint, Géraldine Demourier là aussi, Anaïs évidemment fidèle au poste. Et pour les histoires, c'est honneur à Géraldine, Géraldine Demourier. Grâce à la science, on pourrait bientôt revoir des espèces disparues depuis des milliers d'années.
Imaginez, vous vous baladez dans un zoo et alors entre la plaine des lions et l'enclos des zèbres, vous croisez un mammouth ou encore un dinosaure. Alors évidemment, pour l'instant, c'est de la science-fiction, mais ça pourrait bientôt devenir réalité grâce à Colossal Biosciences, une start-up américaine qui travaille notamment en ce moment sur le revival du dodo. Vous savez, le dodo, c'est cet oiseau emblématique de l'île Maurice. Il a disparu à la fin du XVIIe siècle. Alors, ils ont déjà récupéré un petit peu d'ADN de dodo grâce à des restes préservés au Danemark. Et alors maintenant, ils vont mélanger cet ADN avec l'ADN d'un oiseau vivant aujourd'hui et qui lui ressemble un petit peu, en l'occurrence le pigeon de Nicobar. Alors on verra ce que ça donne le mélange. En tout cas, si ça marche, ben reste à savoir aussi comment il va se comporter, parce qu'une grande partie du comportement est apprise en imitant ses parents, sauf que ce pauvre petit dodo, ben il sera seul au monde. Mais en tout cas, vu le nombre d'espèces qui disparaît chaque jour à cause du réchauffement climatique, et ben ça pourrait apporter un véritable espoir pour le retour de la biodiversité. Alors c'est génial ou flippant?
Moi, je trouve ça génial.
C'est bien, mais les dinosaures, tout ça, non?
Bon, Jurassic Park, on sait comment ça finit quand même.
Bah non, moi, je l'ai jamais vu. Donc, je sais pas comment ça finit.
Je vais pas te spoiler. Bah, enfin, les dinosaures, ils sortent du parc et puis ils mangent tout le monde, quoi.
Voilà. Merci, Géraldine.
Oui, mais là, c'est un petit oiseau, c'est mignon.
Ouais, c'est un petit oiseau, il y a moins de risques, mais bon.
Ouais. Ok, non, ça t'inquiète un peu, Géraldine.
Je trouve c'est à la fois génial, à la fois flippant, quand même.
Et bah voilà, génial et flippant. Un peu comme Quentin Dubois.
Ça va, Quentin?
Oui, ça va très bien. On va faire une transition sur un plateau. Quentin Dubois qui nous raconte l'histoire d'un gagnant du loto très chanceux parce qu'il a gagné grâce à une erreur sur la date de son ticket.
Oui, c'est un ouvrier d'une quarantaine d'années qui a joué au super loto de 16 millions d'euros vendredi 13 janvier. Seulement, au moment de valider sa grille sur l'application, il s'est trompé de date et a validé son ticket pour le loto du lendemain, le 14. Dans la nuit du samedi à dimanche, une notification le réveille pour lui annoncer une bonne nouvelle. Il a quand même gagné au tirage du samedi.
Ah oui, alors qu'il pensait avoir joué le vendredi, il reçoit le message en pleine nuit pour lui dire qu'il a gagné le samedi, mais du coup, il y avait moins, non? Il a gagné combien?
Alors, il n'a pas gagné les 16 millions, hélas, du vendredi 13, mais il a gagné les 17 millions du samedi 14.
Encore mieux.
La première chose qu'il a faite en apprenant la nouvelle, c'est réveiller sa femme. Ils ont discuté jusqu'au petit matin. Alors il lui a demandé ce qui lui ferait plaisir quand même au bout d'un moment et elle a répondu sans hésiter: une planche. Elle est pas compliquée. J'aime beaucoup cette
c'est
dame.
La première chose qui lui vient en tête. Non mais
c'est moi,
il faut qu'il m'appelle, j'ai plein d'idées.
Et moi, si tu me réveilles la nuit et tu me dis t'as envie de quoi, je peux répondre plan de chat aussi. Hein. Je peux tout à fait cette réponse.
Oui, t'as pas 17 millions sur ton compte en banque.
Mais je sais pas s'il lui a dit ça
encore.
Non, il lui a demandé qu'est-ce qui te ferait plaisir.
Non, bah il lui a donné la somme qu'il avait gagnée.
Si tu me réveilles, tu me dis qu'est-ce qui te ferait plaisir, je peux répondre plan de chat comme ça dans mon sommeil.
Donc là, avec l'argent qui reste, puisque la plan de chat ça coûte pas grand-chose, il prévoit de quitter son boulot, lancer sa boîte, acheter une maison, voyager, aller plus à la pêche et manger mieux, c'est-à-dire se faire plus plaisir chez le boucher.
Wow, pas trop de folie non plus.
Sur les épaules.
Franchement.
17 millions chez le boucher, ouais, ça va. quelques belles pièces. On passe à Anthony Kazmarek qui nous emmène en Israël. Tu veux pousser un coup de gueule ce matin, ouais. Anthony, contre un couple de parents indignes dans un aéroport.
Et encore, indigne, le mot est faible. Ça s'est passé donc à l'aéroport de Tel Aviv mardi dernier. Un couple devait prendre l'avion avec leur bébé en direction de la Belgique. Ils se présentent donc au comptoir d'enregistrement des bagages avec leurs billets, leurs deux billets. Le bébé, lui, n'avait pas son billet.
Je ne vous oublie pas, non.
Oui, bah, visiblement, eux avaient quand même envie d'oublier leur enfant. Des parents normaux, dignes, respectables auraient normalement dû trouver une solution, par exemple en tentant d'acheter un nouveau billet, voire en reportant leur voyage. Eh bien, pas eux. Ils décident simplement de laisser le berceau avec le bébé sur le comptoir d'enregistrement et de courir fissa direction la porte d'embarquement pour la Belgique. Une envie pressante de frites peut-être, hein, mais une décision en tout cas vraiment irréfléchie, dangereuse, honteuse.
Oh,
et qui sur le coup... Ah ouais, non, moi
parfois
je suis...
les parents sont fatigués.
Moi je suis révolté, Charles.
Ah, j'ai décision... déjà failli en laisser un ou deux sur une aire d'autoroute.
Est-ce que t'as des enfants?
Mais on devait prendre un bateau et j'étais avec ma petite qui avait 3 mois à l'époque, donc j'avais pas pris de billet.
pas. J'aurais dit non.
Et là, on me dit, même si elle paye pas, il faut quand même qu'elle soit comptée. Le bateau est plein, donc vous pouvez pas monter avec votre bébé.
Et on embrasse la fille de Géraldine qui nous écoute sûrement depuis, je sais pas.
Mais elle ne l'a pas laissé. Elle a hésité. Hein.
Oui, est-ce que tu regrettes aujourd'hui cette décision?
Je ne me prononcerai pas.
Ouais, comment ça s'est fini pour ce couple, Anthony?
Évidemment, pour le coup, la décision du couple a sidéré le personnel de l'aéroport, qui était vraiment sous le choc. Et ce couple a fini par être arrêté par un agent de sécurité, interpellé ensuite par la police israélienne. Et depuis, on ne sait pas s'ils ont pu repartir ou non vers la Belgique, à deux ou à trois peut-être. Mmh. Voilà, affaire à suivre.
Alors, fera une belle histoire à raconter à leur bébé. Bah, oui. Toute sa vie, dès qu'il fera une bêtise, on aurait dû te laisser au comptoir de Ryanair. Bref, Anaïs Castagna, une info importante pour ceux qui nous écoutent là. Enfin, pour moi en tout cas. Les préventes commencent ce matin pour les concerts de Beyoncé.
On rappelle les deux dates françaises de son Renaissance World Tour. 26 mai au Stade de France, 11 juin au Stade Vélodrome. Charles, comme je sais que tu es très intéressé, j'ai regardé les prix des billets, de 78€ à 199. Prévente à partir donc de 10h ce matin. Et la vente officielle commence mardi 7 février à 10h.
Pour les préventes, on va préciser que ça se passe, faut s'inscrire sur le site de Live Nation. Je suis très précis, je suis inscrit, ça y est.
Voilà, il est à fond. Soyez très réactifs parce que pour Aya Nakamura, par exemple, tout est parti en 15 minutes seulement. Alors pour Beyoncé, j'imagine que ça sera encore plus. Aya, qui donnera un concert à l'Accor Arena pendant que Beyoncé sera au Stade de France. Pas grave, dit-elle, je viendrai juste après.
Et moi, je suis une big fan de Beyoncé, du coup, après mon concert, allez hop, Stade de France.
Ce qui serait génial, c'est de les voir toutes les deux sur scène. Peut-être que tu auras cette chance, Charles. On va suivre, tu nous diras si tu arrives à avoir des places de Beyoncé.
Alors, je vais vous donner mon petit tips. Je voulais faire pareil pour Madonna. Vous savez, toutes les places sont parties hyper vite. Et du coup, moi, je suis pas très réactif, ces trucs-là, d'ordinateur, d'internet et tout. Mais j'ai un copain qui s'appelle Emmanuel Le Chypre, qui était à fond aussi pour aller voir Madonna. Et du coup, je l'ai missionné. Et c'est lui qui s'est chargé de cliquer, qui a réussi à nous décrocher des places pour Madonna au mois de novembre. Donc, je pense lancer mon ami Manu Le Chypre sur les places pour Beyoncé. Comme ça, on ira tous les deux se déhancher sur Crazy in Love avec Manu Le Chypre.
Je veux des vidéos.
Promis, je partagerai tout ça sur Insta, comme tous les jours, évidemment. Géraldine Domori à 4h58. Oui, il y a la reine Beyoncé, la reine Ayana Nakamura, et puis il y a Géraldine Domori pour la météo du jour. Géraldine,
c'est une météo grise encore, comme un peu comme hier, donc en tout cas sur la moitié nord ça va être bien gris, un peu de pluie vers le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, on peut avoir quelques gouttes aussi vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France. La moitié sud, elle va rester sous le soleil. On va encore avoir du Mistral et de la Tramontane. C'est quand même le 17e jour d'affilée que le Mistral souffle et ça va continuer encore dans les prochains jours. Les températures, c'est assez contrasté ce matin parce que là où il y a des éclaircies, il y a des gelées. Moins 4 à Aurillac, moins 1 à Toulouse. Alors il fait 1 à Marseille, 2 à Bordeaux. On a 8 à Paris, Brest. Cet après-midi, 9 à 12 degrés quasiment partout. Et près de la Méditerranée, on sera plutôt entre 14 et 18 degrés. Donc il ne va pas y avoir beaucoup de changements pour la fin de la semaine. Pour le week-end, c'est un week-end qui va être calme. Demain, souvent gris, un peu plus d'éclaircies à l'ouest. Beaucoup de soleil sur le sud-est, toujours avec du vent. Dimanche, progressivement, le soleil va gagner les régions au nord de la Loire. Toujours du soleil et du vent des Alpes à la Méditerranée. Et puis la semaine prochaine, les températures vont bien baisser, mais on aura un temps calme et souvent très ensoleillé.
Il est précisément 5h. Bon réveil à tous sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot, le matin, vous le savez, sur RMC. On débat, on sourit, mais surtout on vous informe. Le journal de 5h est présenté par Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Une réforme indispensable. Elisabeth Borne ferme pour défendre son texte hier à la télévision. La première ministre ouverte à des aménagements sur l'emploi des seniors ou les carrières longues. Des aveux et des doutes après la découverte du corps de Siem hier. Le principal suspect évoque une dispute amoureuse, version contestée par les proches de la lycéenne. Et puis on ira au PMU qui ne connaît pas la crise. Le nombre de Paris a bondi de 10% par rapport à l'an dernier.
Elisabeth Borne n'a rien lâché hier soir sur les sujets qui fâchent.
La première ministre a défendu sa réforme des retraites pendant un peu plus d'une demi-heure hier soir sur France 2, sans revenir sur le report très contesté de l'âge de départ à 64 ans, mais en confirmant qu'elle était ouverte à des aménagements. Hélène Terzian du service politique d'RMC.
Elisabeth Borne entend les réticences, les inquiétudes des Français, mais elle leur rappelle son message.
C'est indispensable de mener une réforme pour préserver notre système de retraite par répartition.
La première ministre répond sur les principaux points de crispation à propos des femmes. Elle refuse de dire qu'elles seront perdantes. En revanche, elle ouvre la porte à quelques concessions. D'abord sur l'emploi des seniors et la publication de l'index prévu par le texte.
Je pense qu'on peut aller plus loin en disant que les entreprises dont l'index montre qu'elles n'ont pas des bonnes pratiques à l'égard des seniors, si elles n'ont pas un plan d'action ou s'il n'y a pas des effets pour corriger ces mauvaises pratiques, alors il pourra aussi y avoir des sanctions.
Elle se dit favorable à étendre cet index aux entreprises de plus de 50 salariés. Autre possible aménagement sur le dispositif des carrières longues, la première ministre laisse entendre qu'il pourrait aller au-delà de ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans.
Les députés de la majorité nous ont aussi interrogés sur la situation de ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. On aura ce débat la semaine prochaine.
Et elle espère bien trouver des compromis au Parlement, car Elisabeth Borne l'a dit, elle n'envisage pas l'hypothèse d'un recours au 49-3.
Pas de quoi convaincre les syndicats. Il faut amplifier la mobilisation contre la réforme, a réagi le leader de la CFDT, Laurent Berger, l'intersyndicale qui, je vous le rappelle, appelle à la mobilisation les 7 et 11 février de la semaine prochaine. Avant cela, la réforme arrive ce lundi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. 20 000 amendements déposés, plus de la moitié par la France Insoumise. Une manière de bloquer le texte qui doit être examiné du 6 au 17 février avant sa transmission au Sénat. Il est 5h02 sur RMC. Des doutes 24 heures après les aveux du meurtrier présumé de la jeune CIEM. Le corps de la lycéenne a été retrouvé dans une forêt près d'Alès dans le Gard, 8 jours après sa disparition. Le principal suspect, un homme de 39 ans, évoque une dispute en lien avec leur relation amoureuse. Mais Romain Poiseau, cette version interroge.
Le suspect a expliqué son geste lors de sa garde à vue. Une dispute en serait à l'origine, dispute entre deux amoureux qui cachaient leur relation. Selon lui, la procureure de la République de Nîmes, Cécile Jansac.
Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité.
Le suspect aurait expliqué que Siam menaçait de dévoiler leur relation publiquement. Il n'aurait pas su gérer la pression et l'aurait étouffé. Version du suspect dont doute sérieusement l'avocat de la famille de Siem, Maître Mourad Batik.
Cette relation amoureuse, personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Siem n'est plus là pour la confirmer.
De son côté, le suspect assure regretter son geste selon son avocat Jean-Marc Darrigade.
C'est une personne qui subitement a fait le choix d'affronter sa lourde responsabilité. Il a forcément conscience de la gravité. Il est impardonnable, il sait tout ça.
Une expertise psychologique du suspect avait été réalisée il y a quelques années. Elle décrivait une personne narcissique, orgueilleuse, têtue et impulsive, à tendance sociopathe.
La riposte des avocats de Noël Le Graët, épinglée la semaine dernière par les conclusions provisoires d'une mission d'audit sur sa gestion de la Fédération française de foot. Le rapport estimait que le patron de la FFF, après une série de défaillances et des accusations de harcèlement sexuel, n'était plus légitime à la tête de l'institution. Clément Brossard, pour les avocats, ce rapport a des allures de réquisitoire.
Oui, des avocats qui se disent frappés par la virulence des mots à l'égard de leurs clients, surtout que l'audit se base, selon leur dire, sur des témoignages anonymes et tronqués. Le président de la Fédération a assuré par la voix de ses conseils qu'il défendra son honneur. Visé par une enquête de harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët ressent aujourd'hui un profond sentiment d'injustice. Les inspecteurs estiment qu'il n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer. De leur côté, les avocats du dirigeant de 81 ans regrettent une mission d'audit biaisée par une pression politique et médiatique, mais dénoncent aussi la violation de la confidentialité de ce rapport et le climat ambiant qui fait fi du respect de la présomption d'innocence. En retrait de la présidence, celui qui ne s'est toujours pas exprimé à titre personnel ne semble pas baisser les bras à l'idée de retrouver son poste, même si son entourage inquiet l'incite à tourner la page.
5h05 sur RMC, les boutiques de prêt-à-porter sont-elles menacées de disparition ? Après Koukaï, placé en redressement judiciaire mercredi, Pimki pourrait supprimer 500 emplois dans le cadre de son rachat par un consortium de plusieurs entreprises. La cession de l'enseigne de mode devrait bientôt être entérinée selon les syndicats. Les PMU, eux, ne connaissent pas la crise en tout cas. 10 milliards d'euros misés par les parieurs en 2022 et cela malgré l'inflation, soit une hausse de 10% des parieurs qui se retrouvent de nouveau depuis la fin de la crise Covid dans les bars tabac PMU où Kevin Gasser est allé faire un tour à Paris pour RMC.
Dans 3 minutes, le quintet part, j'appuie.
Sacha est un parieur inconditionnel. Depuis 30 ans, chaque mois, il mise sur les courses hippiques.
Je peux mettre 200, je peux mettre 300, je peux mettre 100, je peux mettre 500. Je mets ça de côté et avec cet argent-là, je joue. Comme je ne suis pas fumeur, je dis tiens, pourquoi pas, je tente ma chance.
Des clients fidèles, pas forcément plus nombreux, mais qui jouent de plus en plus. C'est ce que constate Faisal. Il est responsable d'un d'un point de vente à Paris.
Ici, on enregistre en moyenne 1000 paris par jour. En 2022, on est passé sur du 1300 paris.
Autre explication de cette croissance de l'entreprise, l'explosion des paris en ligne depuis les confinements.
25% de croissance par rapport à 2019.
Emmanuelle Malcaz-Doublet est la directrice générale du PMU.
On vise une croissance de 5% dans les 3 ans qui viennent par an. Il y a cette complémentarité vraiment qui est intéressante, c'est que souvent, nos joueurs jouent à la fois en point de vente et sur le digital.
L'entreprise a aussi gagné du terrain à l'international. Exemple dimanche dernier lors du Grand Prix d'Amérique qui s'est couru à l'Hippodrome de Vincennes. Sur les 30 millions d'euros de mise réalisée, 20% proviennent de l'étranger.
L'inflation qui n'a pas non plus découragé les skieurs. Ce chiffre RMC ce matin, alors que les vacances commencent ce soir. L'école de ski française a enregistré une hausse de 18% de ses inscriptions par rapport à l'an dernier. Ça sera un choc sans Mbappé. La star du PSG manquera le match aller contre le Bayern Munich en Ligue des Champions le 14 février prochain. Blessé lors du match face à Montpellier mercredi soir, le numéro 7 du Paris Saint-Germain, forfait pour 3 semaines, souffre d'une lésion de la cuisse gauche. Kylian Mbappé, grand favori d'ailleurs, pour récupérer le brassard de capitaine de l'équipe de France après Hugo Lloris, Raphaël Varane dit au revoir au Bleu et prend sa retraite à seulement 29 ans. Il l'a annoncé hier. Et puis, question carrière, la navigatrice Clarisse Kremer a été coupée net dans la sienne en congé maternité. Elle n'a pas accumulé les points nécessaires pour participer au prochain départ du Vendée Globe. Nouveau règlement de la course, du coup son sponsor Banque Populaire l'a débarqué. Je suis sous le choc, a-t-elle réagi sur Instagram. Ces règles interdisent à une femme d'avoir un enfant.
C'est tout problématique. À fait scandaleux de voir que son sponsor, la Banque Populaire, l'a lâché juste parce que elle était enceinte en fait.
Non,
parce qu'elle a loupé des entraînements.
Ils lui ont pas permis d'accumuler les points nécessaires pour participer à la course.
Elle a pas à payer ça.
Non mais le sponsor la lâche parce qu'elle va pas faire le Vendée Globe.
Oui, enfin, pardon.
Mais ça, le problème, c'est les règles qui l'empêchent de faire le Vendée Globe.
Oui, c'est les règles qui l'empêchent.
Le sponsor dit on sponsorise un navigateur qui participe au Vendée Globe, c'est le principe.
Mais bon, après, les règles pourraient changer. C'est évidemment, le cas dans le tennis, par exemple.
Et le sponsor ne la soutient pas non plus.
C'est vrai, on aurait pu dire voilà, lâche
exactement,
pas.
Exactement,
ils auraient pu être derrière elle.
Bon, eh ben, à suivre. On espère. Non, mais ça, c'est peut-être une des premières fois, je pense, que ce genre de cas se pose et c'est peut-être l'occasion, justement.
C'est peut-être le coup de gueule qui va faire changer les choses.
Exactement, espérons que ça fasse bouger les règles.
En attendant,
il y en a d'autres qui veulent faire bouger les règles. C'est le gouvernement qui réfléchit à modifier, à toucher au droit de grève dans les transports. Et oui, Clément Beaune, le ministre des Transports, selon nos infos, voudrait obliger les cheminots à se déclarer grévistes un peu plus tôt. Aujourd'hui, c'est 48 heures avant la grève. Il vaudrait aller plus loin, 72 heures, peut-être plus, pour mieux organiser le service minimum. Est-ce qu'il faut restreindre le droit de grève dans les transports? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur RMC, parce que y a ces préavis là pour la semaine prochaine. Le mardi 7, c'est déjà déposé à la SNCF. Il y aura aussi peut-être le mercredi 8, voire le samedi 11, en pleine vacances scolaires. Est-ce qu'il faut, tiens, pourquoi pas interdire les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires? C'est ce que propose une députée qui a déposé un texte à l'Assemblée. Elle sera ce matin sur RMC à 7h40 dans Apolline Matin. Cette question des grèves et des nuisances dans les transports, on en parle avec vous, on en débat ce matin au 32-16 tout au long de la matinée. Et puis, je vous annonce le programme, d'ici 6h, il y aura aussi Anthony Morel. Là aussi, il sera question de transport, mais sur la route. Anthony Morel va nous présenter les tout derniers radars, les radars du futur. Et bon, ça va, comment dire, vous inquiétez si vous avez l'habitude de rouler un peu vite. On va quand même se marrer dans cette matinée, évidemment. Ça, c'est la promesse tous les jours sur RMC. On va retrouver Arnaud Demange dans quelques minutes. Et puis, tout de suite, on va même vous faire gagner.
RMC, la voix du jour.
La voix du jour, la voix qui vous permet de gagner tout de suite des beaux cadeaux au 32-16.
On va écouter un petit extrait d'une personnalité, c'est simple. On vous rappelle le principe, si vous reconnaissez cette voix, vous pouvez faire le 32-16 pour gagner.
J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils reviendront plus. Et ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi. Je suis atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. C'est une perte de la pilosité. Ça n'est ni douloureux, ni contagieux, ni grave.
Alors, qui parle de ses poils hier soir à la télévision?
C'est quelqu'un qui a atteint de vitiligo.
Aussi, oui.
Quelqu'un qui a été Matignon, on va le dire.
Ah bah, qui a porté une réforme des retraites il n'y a pas si longtemps.
Ouais.
Mais qui a été, on va dire, qui est passé aux oubliettes à cause du Covid.
Voilà.
Mais...
Et qui est bien connu au Havre.
Aussi, ouais, voilà. C'est bon, là, il y a assez d'indices là, je pense. On peut pas en donner plus. Si vous avez reconnu cette voix, cette personnalité, vous composez tout de suite le 32-16. Si vous êtes rapide, si vous êtes le premier à donner son nom, eh bien, vous allez remporter
un super matelas gonflable Fortech de la marque Best Way pour vous, vos proches. Vous faites ce que vous voulez avec.
Carrément, voilà, de belles promesses d'Anaïs et pour gagner votre matelas. Donc, c'est tout de suite au 32-16. Vous appelez Quentin au standard et le gagnant sera en direct avec nous avant 5h30 sur RMC.
La voix du jour sur RMC avec Best Way. Piscine hors sol, spa, jeux et matelas gonflables. Découvrez tous les produits sur bestwaystore.fr.
Et avant 5h30, on va aussi se marrer avec Arnaud Demange. Là, on a déjà hâte. Le meilleur d'Arnaud Demange, c'est dans une dizaine de minutes. Et tout de suite, tiens, on va découvrir le choix d'Anaïs.
On va vous parler des influenceurs bons plans, ces influenceurs qui passent leur temps dans les magasins de hard discount à la recherche des bonnes affaires.
Ah, est-ce qu'on trouve des bons plans sur TikTok, Snapchat et Instagram? Anaïs a la réponse, c'est tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin. RMC. Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Parce qu'Anaïs, ce matin, tu as choisi de nous parler de ces influenceurs qui aident les Français face à l'inflation.
Oui, souvenez-vous, il y a peu, je vous parlais de ces influenceurs qui sont payés par des grandes marques pour vous vanter leurs sacs, leurs bijoux et tous leurs produits hors de prix.
C'est du vent, du bluff, poudre aux yeux.
Ça cartonne toujours, mais dans le même temps, des influenceurs d'un nouveau genre se font une place sur la toile. Des influenceurs bon plan à la recherche de produits pas chers dans les enseignes de hard discount ou dans les magasins de déstockage. C'est le cas de l'influenceuse Jolie Shopping qui nous emmène chez Action.
Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Action pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je propose qu'on découvre un petit peu ce qu'ils ont mis en rayon. Et j'ai vu en arrivant, regardez, des petits Bouddhas. Ils sont mignons ou pas? Ils sont 1,23€.
Ah, c'est génial, elle nous emmène faire les courses en fait.
Ouais, alors pas cher, mais pas toujours très utile hein, les produits dont elle parle. Oui. Ça va de l'alimentaire au bibelot dont tu te lasses au bout de deux jours. Mais elle fait ça donc plusieurs fois par semaine, se filmer donc dans les rayons d'Action, de Lidl ou encore d'Aldi avec les bonnes affaires selon elle, les derniers arrivages, les grosses promos, ça plaît. Elle a des centaines de likes par post et compte 115 000 abonnés sur Instagram.
Comment elle s'appelle là? Je vais chercher.
Elle s'appelle Jolie Shopping.
Jolie Shopping, et d'ailleurs, c'est pas la seule à faire ça. Hein.
Ouais, je peux te citer Madame Lidl, 79 000 abonnés sur Insta, mais aussi Toria Lifestyle qui était chez Nose hier. Elle a trouvé ça.
Des lingettes ici à 1,35€. Vous avez des sacs poubelles qui sont vendus par 15. C'est 20 litres et ils sont à 89 centimes.
Mais aussi les bons plans de Mimi ou encore mes secrets de Nana, compte tenu par Razika.
Alors cette semaine en promo côté fruits et légumes, on a les pommes Pink Lady, elles sont à 1,99€.
Des journalistes de BFM TV l'ont rencontré et lui ont demandé pourquoi elle faisait ça.
Les gens sont à la recherche du bon plan, donc avec l'inflation qu'il y a sur tous les produits et dans toutes les enseignes. Je suis toute la journée dans les magasins et à l'affût des bons plans à partager et c'est une vie que j'aime.
Alors elle a vu ses abonnés augmenter avec l'inflation, les internautes adorent, surtout les femmes apparemment, parce qu'elles trouvent que c'est authentique avec ce qui pourrait être une bonne copine qui donne tous ses bons plans. D'ailleurs, à chaque fois qu'une vidéo est postée, les internautes réagissent, posent des questions, c'est ça aussi que les gens apprécient.
Oui, mais alors là on a l'impression qu'elles sont complètement indépendantes, qu'elles nous partagent des vrais bons plans. Qu'est-ce qui nous dit que ces influenceuses, elles sont pas en fait payées par les enseignes ou par les marques pour faire de la fausse pub déguisée quoi?
Interrogée à ce sujet, Jolie Shopping répond qu'elle n'a jamais conclu de partenariat avec ses enseignes ni même monétisé ses vidéos. Mais quand tu vas sur le compte de Doria Lifestyle, tu vois rapidement qu'elle est ouverte aux collaborations. C'est écrit dans le message la présentant. Il y a même son adresse mail pour la contacter. Donc oui, la question de leur indépendance se pose, évidemment.
Un nouveau yaourt allégé qui n'a strictement aucun intérêt. Alors, vous allez me dire,
pourquoi est-ce qu'on cherche à vous le vendre?
Mais parce qu'on a des objectifs.
Et c'est sûr, c'est qu'elles font une pub immense au magasin de Hard Discount. Ils sont ravis de voir ces vidéos, des vidéos censées vous permettre d'économiser, mais qui vous encouragent tout de même à consommer encore et encore. Ça, je suis pas certaine que ce soit toujours très bon pour le porte-monnaie.
Oui, donc à regarder avec des pincettes, on va dire comme ça, ces vidéos d'influenceuses bon plan, d'influenceuses pouvoir d'achat. Ça se développe sur les réseaux sociaux. On voulait vous en parler ce matin. Excellent choix, Anaïs. Voilà, moi, ça a titillé ma curiosité.
C'est toi qui m'as dit, faut que
oui,
tu regardes ça.
Oui, j'en ai parlé hier et je regrette pas. C'est génial. Enfin, c'est génial. Donc, là, je suis ravi de découvrir ce nouveau concept d'influenceuse pouvoir d'achat. À 5h15 sur RMC, on va reprendre notre débat autour des grèves annoncées à la SNCF la semaine prochaine pendant les vacances scolaires. Et ce débat qui revient évidemment, faut-il limiter, restreindre le droit de grève des cheminots? Clément Beaune, selon les infos d'RMC, le ministre des Transports voudrait que les cheminots soient obligés de se déclarer un peu plus tôt grévistes pour mieux organiser le service minimum. On a aussi cette députée de Vendée, Véronique Besse, qui sera l'invitée d'Apolline ce matin à 7h40 sur RMC, qui va venir défendre son idée. Elle voudrait carrément interdire, comme ça se fait en Italie, les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires. On va voir ce qu'en pense Cyril, qui nous appelle des Yvelines. Cyril, chauffeur VTC, c'est ça? Salut Cyril.
C'est ça, bonsoir.
Alors Cyril, bonsoir, j'entends une écho, je ne sais pas si vous êtes sur haut-parleur, sur Kit Main Libre.
Bien, attendez, j'enlève Kit Main Libre.
Voilà, ça sera beaucoup mieux pour discuter, Cyril.
Attendez, j'enlève le son par contre, c'est bon, vous m'entendez?
Très bien, on en est où là? C'est le milieu de la journée de boulot, la fin de la nuit?
Bah, je ne sais pas, vu que tout augmente, il faut que je augmente les temps de travail, donc je pense encore une heure ou deux à peu près.
Encore une heure ou deux, avec RMC évidemment, pour vous accompagner. Cyril, je sais que vous êtes un fidèle. Et ce qui vous a fait appeler ce matin, c'est cette question, est-ce qu'il faut restreindre le droit de grève des cheminots?
Alors, juste avant, je voudrais juste remercier Anaïs Castagna parce que grâce à ses petites brèves et tout, j'ai réussi à choper des billets pour Madonna.
Ah, c'est vrai,
super.
Ben, ouais, je suis contente.
Mais ça serait bien qu'il y ait plus de, qu'on puisse interagir aussi avec ces petites chroniques, parce que des fois, il y a des trucs super intéressants et on peut pas interagir.
Bah, vous êtes libre, hein. Mais bien sûr, vous faites 32-16.
Et d'ailleurs, on livre
messages
en direct.
À chaque fois, il y a pas assez de créneaux, en fait, pour discuter, parce qu'en fait, comme c'est court.
Ah, bah, on va vous trouver un créneau, en fait. Cyril, c'est promis, pour discuter avec Anaïs, ouais. Si vous voulez. Mais à quelle date pour Madonna? Parce que j'y vais aussi avec Madonna.
Ça m'a coûté un bras, mais de toute façon, ce week-end m'a coûté un bras, parce que j'ai trouvé des places pour The Weeknd et j'ai trouvé des places aussi pour Robbie Williams.
Oh là là, non, mais Cyril, ouais, vous passez.
Tous les concerts presque. Ouais. Bon. Il y a Beyoncé là.
Aussi pour le rugby. J'ai trouvé aussi pour le rugby. Au Beyoncé, je m'en fous un petit peu, mais on m'a demandé pour en chercher, moi. Donc,
Bon, bah, plus Madonna que Beyoncé. On va pas trancher ce débat tout de suite, ouais. Cyril. On va plutôt se lancer sur celui autour des cheminots et des grèves, alors, Cyril.
Ouais, mais je voulais quand même la remercier parce que voilà, c'était un truc que je voulais faire depuis trop longtemps. Et non, moi je suis pas totalement contre. Moi je suis pas gréviste parce que moi les grèves, j'en ai un peu rien à faire. Déjà, j'ai pas voté, donc moi je suis un petit peu au-dessus de tout ça. Mais non, on peut pas les interdire parce que. Bien souvent, des lois sont passées pendant les vacances. Donc, si on interdit le droit de grève pendant les vacances, bon, alors là, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses.
Oui, donc pour
même
vous,
si ça fait chier, c'est comme ça. Quoi.
Voilà, une grève, c'est fait pour bloquer, pour nuire, et il faut laisser.
Non, c'est pas fait pour nuire, c'est fait pour défendre ses droits. Après, ça nuit pas parce que c'est souvent les mêmes qui font grève, c'est vrai, on peut pas le nier, ça. Par contre, c'est souvent les raffineurs, c'est souvent les profs, c'est souvent les cheminots. Mais après, si on interdit aux cheminots de faire grève, alors bientôt, on interdira aussi aux profs de faire grève pendant les heures de cours, on interdira aussi, non, mais c'est pas possible.
Donc, pas touche au droit de grève, Cyril.
Non, on ne doit pas toucher le droit de grève. C'est justement c'est ce qui fait la France.
Oui, mais le gouvernement dit on peut l'adapter, faire en sorte que ça embête moins les usagers.
Le gouvernement dit beaucoup de choses aussi. Hein, donc, ils ont dit que c'était négociable, c'est plus négociable. Là, Elisabeth Borne a dit qu'elle ouvre la porte à des ouvertures. On sait très bien qu'elle ne le fera pas. Non, et à un moment donné, il faut écouter les Français. Les grèves, on peut les casser avant qu'elles aient lieu. Il faut du dialogue, du dialogue. Mais en France, on ne dialogue plus. On a une opposition qui fait que gueuler. On a des politiques qui s'en foutent complètement et on a des Français qu'on n'écoute pas. Donc, tant qu'on en est là, on est dans une impasse. Et non, mais il ne faut pas toucher.
Non, mais j'ai du mal à contredire votre résumé de la situation, en tout cas, Cyril. Ouais, et j'entends votre position. Et le droit de grève, c'est comme ça. Et plutôt que s'intéresser aux nuisances du droit de grève, il vaudrait mieux dialoguer et éviter d'en arriver à la grève et au conflit social. Vous faites bien de le rappeler, Cyril, ce matin en direct sur RMC. Je vous remercie d'être passé. Je pense qu'Anaïs vous remercie particulièrement pour votre fidélité ce matin.
Non, mais c'est très sympa, votre
Cyril,
message.
Mais oui, Cyril, n'hésitez pas à revenir au 32-16. C'est intéressant ce que vous dites. On va voir parce que tout à l'heure, c'est Arnaud, le cheminot, qui nous disait surtout ne touchez pas à notre droit de grève. Si on fait grève, c'est justement pour se faire entendre et donc il faut qu'une grève, ça bloque. Mmh. Cyril, vous êtes VTC, mais vous partagez la position des cheminots sur cette question. On va voir si tout le monde est d'accord, pour ne pas toucher au droit de grève des cheminots, pour ne pas les obliger à se déclarer grévistes plus tôt, pour ne pas leur interdire de faire grève pendant les vacances. Ce débat autour du droit de grève dans les transports, on va continuer à l'avoir avec vous au 32-16. On vous remercie, Cyril, et on vous souhaite bon courage. On vous accompagne pour ces dernières heures de boulot au volant de votre VTC ce matin. Vous faites comme Cyril, vous composez le 32-16 et vous venez dialoguer en direct avec nous, avec Anaïs, avec Géraldine, avec toute l'équipe. On vous retrouve tout de suite sur RMC avec, attention, je sais que vous l'attendez, mais oui, il est là. C'est le meilleur d'Arnaud Demange. Tout de suite, on va se marrer sur RMC.
RMC, 4h30, 6h30,
Charles Matin.
À 5h21 sur RMC, si vous venez de vous réveiller, eh bien, c'est très simple. Voici les trois infos à retenir ce matin avec Anaïs Castagna.
Elisabeth Borne, la première ministre, a défendu hier sa réforme des retraites sur France 2. Elle maintient le cap. Elle assure que sa réforme se fera tout en se montrant ouverte à quelques marges de manœuvre. Elle se dit notamment favorable à des sanctions pour les entreprises qui négligent l'emploi des seniors. Pas de quoi calmer les syndicats qui ont d'ores et déjà annoncé, vous le savez, plusieurs journées de grève pendant les vacances d'hiver. Vacances qui commencent aujourd'hui. À quoi faut-il s'attendre?
Aujourd'hui, il y a un responsable de cette situation, c'est le gouvernement. Il y a une opposition qui est franche, qui est massive à ce mauvais projet. C'est à eux d'entendre.
On y reviendra en détail dans le journal de 5h30 avec Quentin Vinet. Et puis ce chiffre RMC, alors que les vacances commencent aujourd'hui justement pour la zone A, malgré l'inflation et les problèmes de pouvoir d'achat, l'école du ski français enregistre une hausse de 18% d'inscriptions par rapport à l'année dernière. On va y revenir là aussi.
Mais tout de suite à 5h22, dans cette actualité, c'est l'heure de souffler, de se marrer, de se faire plaisir. D'autant plus que c'est vendredi, là, bientôt le week-end, on a besoin de se marrer. C'est Arnaud Demange qui s'en charge tous les matins sur RMC. Et pour vous, les leftos, c'est l'heure de la séance de rattrapage à 5h22 avec le meilleur d'Arnaud Demange.
RMC.
Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Le gouvernement Arnaud a présenté son projet de loi sur l'immigration pour faciliter les expulsions, mais aussi faciliter les régulations des régularisations des sans-papiers qui travaillent dans le secteur en tension. Le texte prévoit même une carte, je cite, une carte talent pour des secteurs spécifiques comme la médecine.
Oui, alors cette carte talent existe vraiment. Elle permettrait de faciliter la régularisation et pas la régulation. Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est les chasseurs qui régulent. C'est pas gentil, là, quand même. Donc, ça permettrait de faciliter la régularisation de sans-papiers médecins, sages-femmes, pharmaciens ou dentistes. Alors, comment obtenir cette carte talent ? Ah. Eh bien, tout simplement, en participant à l'émission « Mon immigré a un incroyable talent ouais ». Salut à tous, bienvenue à Mon immigré a un incroyable talent. On retrouve notre jury avec Éric Antoine, Patrick Sébastien et Gilbert Rozon. Éric Antoine, ça va ? Merci, super Éric. Et on accueille Viorel qui nous vient de Roumanie. Bonjour Viorel.
Bonjour messieurs dames, bonjour Patrick Sébastien.
Salut ! Alors moi Viorel, déjà je te vois, j'adore ta moustache, j'adore. Je sens que t'as du talent, moi j'ai toujours aimé les artistes. C'est quoi ton talent ?
Je fais chirurgien deux fois. Je vais changer un foie qui a cirrhose par un foie tout neuf devant vous.
Ouais.
Hostite calice, potin, là, vas-y, on te regarde. Je ouvre poitrail, je fais dérivation artère, scalpel, je remplace foie usé par foie tout neuf, et voilà, c'est fini.
Putain, tu m'as mis les poils. Déjà, alors, je peux me dire, déjà dans les coulisses, il y avait un technicien, il boitait, tu lui as changé une rotule, c'était bluffant.
Moi, hostie de calice, j'ai pas été convaincu, il m'a manqué de l'émotion, mais j'ai quand même envie de te revoir pour changer des poumons, alors je dis oui.
Ouais, c'est sûr, il manquait un truc. Moi, si j'avais été toi, je te donne un conseil, j'aurais été déguisé en disière à où, tu vois. Et j'aurais demandé à mon infirmière de jongler avec des stéthoscopes, en équilibre sur un brancard, avec la compagnie de Michel Simès qui se serait fait la tête de Doc Gynéco, en jonglant avec des citrons. Mais sinon, j'ai adoré, pour moi, t'as ton permis de séjour. Putain, c'est pour ça que je fais ce métier, ça. C'est pour être ému comme ça, tu vois.
Allez, j'ai hâte de voir l'émission, moi, pas vous.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et ce sera tout à l'heure, Arnaud de Manche en direct sur RMC, comme tous les matins, évidemment. Les deux rendez-vous à noter, c'est 7h20, 8h20, dans Apolline Matin. Et à 5h25, c'est l'heure de vous faire gagner.
RMC,
la voix du jour.
C'est Ludovic qui a été le plus rapide ce matin pour jouer à la voix du jour. On va, dans le Var avec Ludovic ce matin. Bonjour Ludovic.
Salut, oui, allô, bonjour. Ludovic.
Salut Ludovic, vous êtes où dans le Var ?
Je suis à Cabas, à une trentaine de bornes de Toulon.
Ah bah magnifique, en plus j'embrasse toute la région pour moi, Ludovic, ça me fait un peu rêver, ça fait un bout de temps que je suis pas passé dans le Var, mais ça sera le cas bientôt. Bref, je suis pas là pour parler de moi, Ludovic, le veto pour jouer, tiens le veto parce que boulanger, c'est ça Ludovic ?
C'est ça exactement.
Ah bah on va faire un peu de pub, elle est où la boulangerie ?
Elle est à Cabas, on a deux, c'est mon patron qui a Fort Calquéret.
Ok.
Et à Cabas du coup, bah, c'est fourni chez Aurélien et... Aurélie et Florian.
Et ben voilà, on embrasse tout le monde, Aurélie, Florian, le patron, et tous les boulangers d'ailleurs qui nous écoutent. Et Ludovic, pour bien démarrer la journée, vous avez tenté votre chance à la voix du jour. On va voir si vous
on
l'avez
va voir
reconnu.
Si vous avez gagné. On réécoute ensemble la voix entendue juste après le journal de Marguerite. On a votre réponse juste après.
J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils reviendront plus. Et ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi. Je suis atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. C'est une perte de la pilosité. Ça n'est ni douloureux, ni contagieux, ni grave.
Alors Ludovic ?
C'est Edouard Philippe.
Et c'est gagné, bravo Ludovic. Ah, vous avez gagné.
Un super matelas gonflable Fortec de la marque Bestway. Matelas de place.
Eh ben merci, ça fait plaisir.
Eh ben, on vous envoie tout ça dans le bar, Ludovic. Et à 5h26, tout est prêt là ou c'est en train de cuire ? Est-ce qu'on en est ?
Ah, c'est en train de cuire. Le plus gros est passé là.
Le plus gros est passé. Bah tant mieux, Ludovic. On vous souhaite bon courage pour le boulot. Embrassez tout le monde de notre part et on vous envoie votre cadeau. Donc ne quittez pas. On prend vos coordonnées hors antenne et le matelas gonflable part tout de suite dans le bar. Et lundi matin, de nouveaux cadeaux dès 5h dans la Voix du jour pour récompenser les leftos sur RMC.
La Voix du jour sur RMC avec Bestway. Piscine hors sol, spa, jeux et matelas gonflables. Découvrez tous les produits sur bestwaystore.fr.
Il est 5h27, dans un instant, les infos. Quentin Vinet est déjà là dans ce studio. Géraldine Demory arrive pour la météo. Mais d'abord, l'info bonus d'Anaïs. Cyril, au 32-16, il y a un instant, nous disait « J'attends avec impatience toutes les infos bonus d'Anaïs le matin ». Bah Cyril, c'est le moment d'être attentif. Anaïs, tu nous apprends que Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, est évidemment en tête au box-office. D'après Pathé, le film a fait un très bon début dans les salles de cinéma.
Oui.
Ça sent la victoire.
Pathé qui se félicite. C'est le meilleur démarrage pour un film français depuis 10 ans. Le 8e de tous les temps en France, avec plus de 460 000 personnes comptabilisées à l'issue de la première journée d'exploitation. Il faut quand même préciser que sur les 460 000 spectateurs, plus de la moitié avaient fait le déplacement lors d'avant-première organisée avant la sortie du film.
Donc c'est pas 460 000 personnes qui sont allées mercredi en salle.
Exactement. Technique qui permet d'annoncer un bon chiffre dès le départ pour créer une bonne dynamique. Mais ce qu'on va surveiller, ce sont les semaines à venir. Guillaume Canet et ses équipes comptent sur les vacances de février pour parvenir à conquérir le public.
Eh ben on verra si le public est au rendez-vous pendant les vacances scolaires. Tu nous as dit, ouais, donc Pathé confirme que ça envoie pour le lancement
Pathé.
Allez, c'est la blague c'est de trop. Il est temps de passer aux infos avec Quentin Vinet. C'est tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h20, bon réveil à tous sur RMC. Alors faut-il encadrer le droit de grève dans les transports, notamment pendant les vacances?
C'est la question du jour sur RMC.
Mesdames, messieurs, aujourd'hui, un arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF perturbe la circulation des trains. Merci de votre compréhension.
Eh oui, les vacances scolaires débutent ce soir pour la zone A avec une menace qui pèse sur ceux qui comptent partir. Aurons-nous des trains pendant ces vacances d'hiver? Vous le savez, les cheminots sont très engagés dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Tous les syndicats de la SNCF ont d'ores et déjà déposé un préavis de grève pour le mardi 7 et réfléchissent à en faire de même le 8. Puis, pourquoi pas le samedi 11, jour de grand départ en vacances.
Et dans ce contexte, le gouvernement voudrait encadrer davantage le droit de grève dans les transports pour tenter de limiter les perturbations, comme l'a expliqué le ministre des Transports, Clément Beaune, devant le Sénat.
Nous devons, je crois, agir avec à chaque fois deux orientations extrêmement claires. D'abord, le respect évidemment de nos grands principes, notamment le droit de grève, qui, vous le savez, est inscrit et garanti par notre Constitution. Et puis, bien sûr, de la manière la plus concrète et pratique possible, l'intérêt des usagers. Nous pouvons, là encore, réfléchir à la question des délais de prévenance, qui sont aujourd'hui, ça a été instauré dans la loi de 2007, de 48 heures, qui pourraient être débattus, et nous pourrions travailler collectivement à réfléchir à leur extension.
En fait, selon les infos du service politique d'RMC, le gouvernement voudrait demander aux grévistes de se déclarer plus tôt. Aujourd'hui, ils doivent le faire au plus tard 48 heures avant la grève. Demain, ça pourrait être plus longtemps à l'avance pour permettre aux voyageurs et à la direction de la SNCF de mieux s'organiser. Mais cette idée fait déjà bondir les syndicats de cheminots. Écoutez la réaction d'Anas Kazib, cheminot et membre du syndicat Sudrail.
Pourquoi on veut nous limiter? On veut nous contraindre en fait à devoir nous déclarer avant. Ça n'a aucun sens. C'est une atteinte profonde au droit de grève. Il vise ni plus ni moins à ce que la grève ne soit plus existante, à ce que toutes les périodes qui bloquent et qui font mal au patronat n'existent plus. Et que ce n'est pas les délais de prévenance qui vont empêcher les gens de lutter. Et moi je le dis, si le gouvernement il l'entend passer en force, qu'il le sache, on lui répondra avec la même force et la même détermination.
Anas Kazib de Sudrail, très remonté à l'idée de devoir se déclarer gréviste un peu plus tôt, vous l'entendez. Pourtant, certains voudraient aller plus loin, Anaïs, pour limiter les nuisances et les perturbations dans les transports.
Une députée non inscrite de Vendée, Véronique Besse, vient de déposer une proposition de loi pour que les grèves soient interdites pendant les vacances scolaires dans les transports. Une proposition qu'elle va venir défendre ce matin dans Apolline Matin sur RMC et RMC Story à 7h40. Véronique Besse voudrait s'inspirer en fait de l'Italie où les grèves sont désormais interdites à certaines périodes de l'année. Noël, Pâques, la Toussaint et au début des vacances d'été. C'est ce que prévoit la loi. Et si elle n'est pas respectée, des amendes et des sanctions financières peuvent être infligées aux grévistes et aux syndicats.
Alors, faut-il limiter le droit de grève dans les transports? On va poser la question à Christian qui a composé le 32-16 ce matin depuis la belle ville de Toulon dans le Var. Salut Christian.
Oh, c'est gentil de dire belle ville. Bonjour Charles, bonjour Naïs.
Bonjour Christian. Bonjour,
mais c'est vrai, moi j'ai plein de familles à Toulon et tout, j'y vais tout le temps, j'adore. Bref, Christian, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce débat autour du droit de grève des cheminots? Est-ce qu'il faut les obliger à se déclarer plutôt grévistes, voire leur interdire de faire grève pendant les vacances? Est-ce qu'il faut limiter, en fait, le pouvoir de nuisance des grèves à la SNCF?
Moi, je pense, oui, effectivement, qu'il faudrait interdire le droit de grève pendant les vacances. C'est comme en Italie, effectivement, cette proposition de la députée me semble tout à fait sensée. Moi, je trouve que c'est aussi interdire le droit de se transporter, le droit du transport au peuple, en fait, aux autres, aux gens qui veulent se déplacer comme ils le veulent. Je crois que les cheminots cet extrême privilège de pouvoir empêcher des gens de se déplacer. Je crois qu'il y a personne
en France qui a ce privilège. Bah,
je pourrais rajouter les salariés des raffineries, on l'a vu à l'automne, oui. Eux aussi ils peuvent bloquer un peu ceux qui veulent se déplacer. Mais Christian, oui, vous dites il faudrait en tout cas limiter les nuisances des cheminots, des grèves dans les transports, notamment à certaines périodes. Ah. Oui. Alors Christian, tout le monde n'est pas d'accord. Je vois que Rémi, tiens, qu'on connaît bien, Rémi nous a appelé de Grenoble ce matin. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Rémi, j'imagine que vous ne partagez pas l'avis de Christian, parce que je sais, Rémi, que vous êtes très engagé dans cette mobilisation contre la réforme des retraites.
Pas du tout, du tout. D'ailleurs, je trouve que même l'idée est très, très grave, parce qu'en fait, si on commence à réfléchir comme Christian, on se dit, les gens qui empêchent le transport ou qui entravent le transport, c'est un besoin, etc. Du coup, on ne peut pas les laisser faire la grève trop, parce que ça empêche les gens de transporter. Puis après, si les agriculteurs commencent à faire la grève ou manifester, on va dire qu'ils bloquent les routes et qu'ils ne font plus le lait. Et du coup, c'est un droit aussi qu'on entrave.
Rémi, on a déjà vu par le passé des blocages, notamment d'agriculteurs, etc., être délogés par les forces de l'ordre. Il y a des cas dans lesquels on limite les nuisances des grèves ou des blocages. Vous voyez ce que je veux dire, Rémi? Ça arrive.
Oui,
des cas. Quand il y a eu des grèves dans les raffineries, ou d'un moment, il y a eu des réquisitions. C'est la loi.
On est d'accord, c'est la loi, seulement c'est déjà suffisamment strict et suffisamment sécuritaire pour qu'en plus on ne soit pas obligé de faire un truc pareil. Parce que rendez-vous bien compte que si pendant les vacances vous bloquez les grèves, il va suffire de faire passer des réformes au bon moment, à chaque fois, il n'y aura aucune mobilisation possible parce que les plus grosses corporations ne pourront pas manifester, ne pourront pas faire la grève, ne pourront pas bloquer et on pourra faire passer tout ce qu'on veut.
Donc pas touche au droit de grève, dit Rémi. Bon Christian, vous entendez ce que dit Rémi, hein?
Oui, tout à fait. Moi, je trouve le droit de grève, ils l'ont de toutes les façons. En dehors des vacances aussi, tout au long de l'année, ils peuvent, les cheminots peuvent, et ils le font d'ailleurs, ils s'en privent pas, de gêner et d'interdire aux Français de se déplacer comme ils le veulent. C'est selon leur bon vouloir. Ils ont un privilège, les cheminots ont un privilège inacceptable.
Attendez, pas tous en même temps, Rémi?
S'il y avait un autre moyen de se faire entendre qui fasse réagir le gouvernement que de bloquer et de manifester, les gens n'auraient pas besoin de bloquer quoi que ce soit.
Aller manifester devant les ministères, aller manifester devant l'Élysée, devant l'Assemblée nationale, monsieur.
Oui, vous avez déjà vu ce qui se passe quand c'est ce qu'on fait. Les rues sont bloquées par des régiments entiers de CRS.
Vous avez peur des CRS, vous avez peur d'une manifestation, d'ailleurs de manifestations qui se sont très bien déroulées récemment. Non, mais
c'est intéressant ce que vous dites, Christian. Manifester, oui. Bloquer, empêcher les Français de se déplacer, non. Voilà, c'est toute la subtilité du pouvoir de nuisance des grèves, notamment des grèves dans les transports. On entend bien que c'est un débat qui est vif. Partout en France, j'ai envie de dire. Là, on est à Grenoble avec Rémi, à Toulon avec Christian, et c'est un débat qui va forcément se poser dans les jours qui viennent, parce que c'est le début des vacances scolaires aujourd'hui, il y a des préavis de grève à la SNCF, donc forcément la nuisance liée aux grèves dans les transports, on va continuer à en débattre ce matin. Je vous remercie Christian et Rémi d'être venus de bonne heure là, dès 6h moins le quart, ouvrir ce débat sur RMC. Merci à tous les deux, bon courage pour la journée qui débute, et évidemment on va poursuivre ce débat ce matin sur RMC. Notez bien justement que la députée de Vendée, Véronique Besse, qui a déposé un texte à l'Assemblée pour interdire les grèves dans les transports pendant les vacances, sera l'invité d'Apolline tout à l'heure à 7h40 sur RMC et RMC Story, en direct dans Apolline Matin. Donc ce débat va avoir lieu évidemment en toute liberté avec vous. On va continuer à en débattre au 32-16. Faut-il limiter, restreindre le droit de grève dans les transports? Vous prenez la parole au 32-16 des transports. On va continuer à en parler dans un instant avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Avec toi, dans C'est déjà demain, on sera plutôt sur la route, c'est ça?
Ouais, on va parler de radars et des radars qui vont être, vous allez le voir, de plus en plus impitoyable, des innovations technologiques assez dingues qui sont en train d'arriver sur nos routes.
On va évidemment s'en réjouir pour la sécurité routière, n'est-ce pas Anthony? Ce sera pas plus
évidemment.
Évidemment, vive les radars Anthony.
C'est bien pour les caisses de l'État aussi.
Voilà, comme ça c'est dit. Et puis un autre Anthony Kaczmarek est là aussi pour son histoire. Salut Anthony.
Oui, salut à tous. Je vous emmène au Pays de Galles dans un fast-food où il y a des clients violents, agressifs, mais ils vont bientôt disparaître, vous allez voir.
Miracle, une solution magie. Miracle. Oh là là, solution miracle avec Anthony Kaczmarek dans un instant. Mais tout de suite à 6h10, si vous venez de vous réveiller avec RMC, eh bien voici les trois infos à la une de l'actualité, Anaïs.
Elisabeth Borne a défendu sa réforme des retraites sur France 2 hier soir. Elle se dit à l'écoute, mais assure que la réforme se fera avec quelques ajustements possibles. La première ministre se dit notamment favorable à des sanctions pour les entreprises qui négligent l'emploi des seniors.
Les entreprises dont l'index montre qu'elles n'ont pas des bonnes pratiques à l'égard des seniors, si elles n'ont pas un plan d'action pour corriger ces mauvaises pratiques, alors il pourra aussi y avoir des sanctions.
On y revient dans le journal de 6 heures. Le corps de 6e jeune lycéenne de 18 ans scolarisée dans le Gard, retrouvée hier dans un bois après les aveux du suspect. Une dispute serait à l'origine du drame. On y revient également dans le prochain journal. Et puis le début des vacances scolaires pour la zone A. Malgré l'inflation et les problèmes de pouvoir d'achat, l'école du ski français enregistre déjà une hausse de 18% d'inscriptions par rapport à l'année dernière. C'est un chiffre RMC et on va y revenir également tout au long de la matinée.
C'est déjà demain.
Avec Anthony Morel, rebonjour Anthony.
Bonjour.
On va parler radar. Mais oui, les radars automatiques sont de plus en plus perfectionnés. Dernière illustration en date, les radars thermiques, capables d'analyser ce qui se passe dans la voiture.
Ouais. Alors les radars automatiques, ils fêtent leurs 20 ans cette année. Et c'est vrai que c'est une manne financière.
Youpi !
Mais oui, joyeux anniversaire. Non mais c'est vrai que c'est une manne financière absolument dingue. L'État espère glaner 1 milliard de recettes cette année à travers les radars. Et notamment parce que la technologie évolue et devient de plus en plus impitoyable avec les automobilistes en infraction. Alors la dernière illustration, ce sont ces radars de covoiturage qui vont être inaugurés dans la métropole de Lyon. Certains sont déjà testés à Paris également. Leur particularité, c'est qu'ils sont capables d'analyser non seulement la vitesse des voitures, mais surtout le nombre de passagers à l'intérieur de la voiture pour verbaliser ceux qui roulent tout seuls. Alors, évidemment, mais sur les fameuses voies de covoiturage qui sont en train
bien,
de s'installer dans les grandes.
On arrive à Fourvière et tout, là, il y a la voie de covoiturage. À chaque fois, je gruge.
C'est ça, parce que le truc, c'est que pour l'instant, c'est très peu contrôlé, parce que c'est difficile à contrôler.
Tu sais, parce qu'à chaque fois, je gruge et je
normalement,
me dis
il faut avoir.
Si tu mets un mannequin, question idiote.
Moi, j'ai toujours
un mannequin dans sa voiture.
Mais ça m'arrive souvent. On parle pas de la même
chose. Avec un mannequin, je parle d'un mannequin élastique.
Avec Anaïs,
se ferait verbaliser. Ouais. En gros, le truc, c'est que la caméra, elle analyse la signature thermique. Donc, elle va détecter s'il y a une, deux, trois, quatre personnes. Si c'est un mannequin en plastique, globalement, elle va pas le voir, ouais. Si vous voulez. Donc, ça va pas fonctionner. Alors, non, le problème, c'est que, par contre, il y a des problèmes de fiabilité sur, par exemple, la détection d'un bébé dans un cosy, qui compte comme un passager, évidemment. Ah bah oui. Normalement, ces voies, elles sont réservées aux voitures qui ont au moins deux passagers. Tous les passagers, là, sont pas comptabilisés. Donc, il y a une petite polémique autour de ça. Mais en tout cas, c'est des caméras thermiques qui vont s'installer et qui vont permettre de verbaliser. 135 euros à chaque fois, quand même, pour les...
Quand même. C'est un exemple, mais il faut dire qu'il y a énormément d'innovations dans ce domaine, des super radars auxquels plus rien n'échappe.
Alors, je pourrais vous en faire une liste à la Prévert. Il y a notamment le Parifex Nano, équipé d'une technologie de laser à balayage 360 degrés. Alors lui, il détecte non seulement les excès de vitesse, mais aussi le non-respect des distances de sécurité, le franchissement de la ligne blanche, la circulation à contresens, les feux brûlés. Homologué l'an dernier, il commence doucement à se déployer. Il y a aussi des radars double face. Alors eux, ils prennent en photo l'avant et l'arrière de la voiture. Ça augmente les preuves matérielles et ça évite toute contestation possible. Les radars urbains aussi, les ETU, équipements de terrain urbain, conçus pour détecter les infractions en ville, donc les dépassements dangereux, le téléphone au volant. En attendant, ça c'est mon préféré, le radar anti-freinage, testé en Espagne. C'est des radars qui sont capables en fait de détecter que vous freinez brusquement pour éviter de vous faire flasher.
Ah,
voilà. Et donc si tu fais ça, en gros c'est considéré comme infraction et bim, voilà, tu te prends quand même l'amende. Ça c'est testé en Espagne, pas encore en France, mais bon, c'est pas impossible que ça arrive dans les années.
Et il y a même des radars drones.
Oui, alors la loi autorise maintenant les forces de l'ordre à utiliser les drones dans certains cas et notamment la régulation des flux de transport. Il y a pas mal d'expérimentations ces dernières années et donc là c'est des gros moustiques à 40 mètres au-dessus de la tête qui vont être capables de détecter les comportements dangereux, des dépassements par la droite, des queues de poisson, non-respect des distances de sécurité et aussi bientôt, c'est pas encore le cas, les excès de vitesse. Et leur intérêt c'est que ça coûte moins cher et que c'est beaucoup plus discret qu'un hélicoptère et qu'on peut lui demander de rester en vol stationnaire et de suivre des voitures, etc.
Ça va devenir impossible d'échapper au radar sur les routes. Je suis certain qu'inconsciemment, là, en nous écoutant, ceux qui sont au volant, là, en direct, qui nous écoutent.
On ralentit.
On le fait un peu le pire en écoutant Anthony Morel ce matin et ses radars du futur à retrouver évidemment en podcast sur l'appli RMC. On passe à l'histoire d'Anthony.
L'histoire d'Anthony.
Anthony Kaczmarek nous emmène au Pays de Galles où un gérant de fast-food a trouvé la solution pour en finir avec les clients un peu trop agressifs.
Oui, dans ce McDo de Wrexham, le patron n'en pouvait plus. Des rixes, des agressions, des jets d'objets qui touchaient son établissement. Un vrai problème aux États-Unis. Un rapport en 2021 évoquait même une crise de violence dans les fast-food. Je vous laisse écouter ce que ça donne. Voilà, et pour arrêter ces scènes de violence, le patron a choisi la manière douce. Il a décidé d'une part de couper le wifi après 17h, sans doute pour éloigner les jeunes, mais aussi de remplacer la musique d'ambiance de son fast-food par de la musique classique. C'est ce qu'on appelle l'effet Mozart. Ça se fait aussi dans les parkings souterrains, dans les gares. Le but, c'est de donner une impression de paix aux clients. Mais vraiment, est-ce que ça, vous seriez prêt à commander et manger votre burger sur ça?
Oui. Oui, pourquoi pas.
Ah ouais, moi j'ai même envie d'un supplément chez l'art quand tu mets ça.
Mais ça doit, on a envie de mettre des petites chandelles sur la table.
Arrête, j'ai chaud.
Ça, c'est la nocturne de Chopin qui apparemment est l'extrait qui a l'effet calmant le plus fort sur les esprits. Mais il y a aussi le rêve d'amour de Liszt.
Oh, envoie-moi du gras, Anthony. Oh.
Eh ben, le patron du fast-food, gras ou pas, lui, il a choisi Beethoven. Voilà, bon, il y a aussi d'autres études qui n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Des musicologues estiment que le métal ou le hip-hop fonctionnent aussi. L'important, évidemment, c'est d'aimer ce que l'on écoute et surtout ce que l'on mange.
Ouais,
et
puis c'est vrai que ça fait un peu, Fabien, en régime, ça fait un peu musique d'attente.
C'est ça.
Tu peux rallonger l'attente avant ton burger. Ça, voilà. Veuillez patienter. Votre cheeseburger est sur le point d'arriver. Bah, pourquoi pas de la musique plus douce pour adoucir les mœurs dans les fast-foods. C'est la solution d'Anthony Kazmarek. 5h55 sur RMC. L'info d'Anaïs. L'info bonus, c'est le retour très gagnant de l'opéra rock Starmania. Et oui, Starmania vient de finir sa résidence à la scène musicale près de Paris et ça a cartonné.
Oui, la nouvelle version de la comédie musicale de Michel Berger et Luc Plamondon a attiré 300 000 personnes en 3 mois à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Bilan très positif avec une salle pleine quasiment à chaque fois. Elle va maintenant partir en tournée à travers tout le pays à partir du 10 février. Tournée très attendue. Hein. Plus de 650 000 billets ont déjà été vendus. Et puis elle reviendra ensuite à la scène musicale à partir du mois de novembre. Comédie musicale qui cartonne sur scène, mais aussi sur les plateformes de streaming où les écoutes ont augmenté de 144% en 3 mois. Faut dire qu'on s'en lasse pas. Hein.
Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir.
Bon, ça c'est l'original, hein, vous l'avez reconnu évidemment.
Mais on fait peur à voir. Des gars qui se
maquillent. Quand on arrive en ville, bah nous on arrive. On arrive aussi, mais sur RMC Story, à la télé, le canal 23 de la TNT. Et comme Starmania en cartonne, je dois vous le dire, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder le matin avec Anaïs Castagna. Il y a un effet Castagna sur les audiences télé, il faut le dire. Et donc on vous retrouve tout de suite sur le canal 23 de la TNT avec Anaïs et sur RMC évidemment à la radio pour les infos.
RMC, 4h30, 6h30.
Charles Matin.
Il est 6h, bon réveil à tous sur RMC.
RMC Charles Matin.
C'est l'heure du journal Les Infos présentées par Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La première ministre ne lâche rien sur les 64 ans. La réforme des retraites est indispensable, a-t-elle répété hier. En réaction, la CFDT appelle à amplifier la mobilisation. Le meurtrier présumé de Siem dit-il vrai? Lors de ses aveux, le principal suspect a évoqué une dispute amoureuse, version contestée par les proches de la lycéenne. Une provocation, la colère des médecins libéraux alors que l'assurance maladie leur propose de revaloriser leur consultation d'1,50€.
Une réforme indispensable, la première ministre l'a dit, elle est inflexible, elle l'a une nouvelle fois répété hier.
Un peu plus d'une demi-heure d'interview sur France 2 pour défendre sa réforme des retraites hier soir. Donc, le bilan, rien ne bouge sur le report de l'âge légal à 64 ans, mais des ouvertures sur les carrières longues et l'emploi des seniors.
Dès à présent, si les entreprises ne renseignaient pas cet index, on prévoit une sanction financière. Mais je pense qu'on peut aller plus loin et le débat de la semaine prochaine sera sans doute l'occasion de le faire en disant que les entreprises dont l'index montre qu'elles n'ont pas des bonnes pratiques à l'égard des seniors, si elles n'ont pas un plan d'action ou s'il n'y a pas des effets pour corriger ces mauvaises pratiques, alors il pourra aussi y avoir des sanctions.
Sans surprise, les syndicats n'ont pas été convaincus. Écoutez la réaction du leader de la CFDT, Laurent Berger.
On a l'impression de revivre la conférence de presse du 10 janvier. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bougé. On a le sentiment qu'entre-temps, il ne s'est pas passé un mouvement social d'une grande ampleur avec les manifestations les plus nombreuses depuis le début des années 90. Des gens qui s'expriment sur leur travail, qui parlent de leur travail, de leur besoin de reconnaissance, leur besoin de respecter leur intégrité physique et psychique au travail. Enfin, c'est ça qui est présent aujourd'hui dans les manifestations et on n'en a pas parlé. Le 7, il faut continuer la mobilisation qui a eu lieu le 31 et le 19. Et il faut l'amplifier.
L'intersyndicale qui prépare donc les 2 prochaines journées d'action mardi et samedi prochain avec toujours une interrogation. Y aura-t-il des trains le samedi au moment où les zones A et B sont en vacances? Les syndicats de la SNCF ne se sont toujours pas mis d'accord. Avant cette date, la réforme arrive ce lundi dans l'hémicycle. Le nombre d'amendements donne le vertige. 20 000 amendements déposés, plus de la moitié par la France Insoumise. Une manière de bloquer le texte qui doit être examiné du 6 au 17 février avant sa transmission au Sénat. Il est 6h02 sur RMC. Des doutes. 24 heures après les aveux du meurtrier présumé de la jeune CM, le corps de la lycéenne a été retrouvé dans une forêt près d'Alès dans le Gard, 8 jours après sa disparition. Le principal suspect, un homme de 39 ans, évoque une dispute en lien avec leur relation amoureuse. Mais Romain Poiseau, cette version interroge.
Le suspect a expliqué son geste lors de sa garde à vue. Une dispute en serait à l'origine, dispute entre deux amoureux qui cachaient leur relation. Selon lui, la procureure de la République de Nîmes, Cécile Jansac.
Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité.
Le suspect aurait expliqué que Siam menaçait de dévoiler leur relation publiquement. Il n'aurait pas su gérer la pression et l'aurait étouffé. Version du suspect dont doute sérieusement l'avocat de la famille de Siam, maître Mourad Batik.
Cette relation amoureuse, personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Siam n'est plus là pour la confirmer.
De son côté, le suspect assure regretter son geste selon son avocat Jean-Marc Darrigade.
C'est une personne qui subitement a fait le choix d'affronter sa lourde responsabilité. Il a forcément conscience de la gravité, il est impardonnable, il sait tout ça.
Une expertise psychologique du suspect avait été réalisée il y a quelques années. Elle décrivait une personne narcissique, orgueilleuse, têtue et impulsive, à tendance sociopathe.
Romain Poiseau pour RMC. Un rapport aux allures de réquisitoire. La riposte des avocats de Noël Le Graët, épinglée la semaine dernière par les conclusions provisoires d'une mission d'audit sur sa gestion de la Fédération française de foot. Le rapport estime que le patron de la FFF, mis en retrait après une série de défaillances et des accusations de harcèlement sexuel, n'était plus légitime à la tête de l'institution. Un chiffre ce matin, 1 euro d'augmentation, c'est ce qu'a proposé hier l'assurance maladie aux médecins libéraux, eux qui faisaient la grève pour doubler leur tarif de consultation de 25 à 50 euros. On en est loin, c'est même une provocation, c'est ce que dit ce matin sur RMC Sophie Power, présidente du syndicat des médecins libéraux.
Bien entendu, ça n'a rien à voir avec le tarif nécessaire pour moderniser nos cabinets, embaucher du personnel, etc. On ne peut rien faire, quoi. C'est pire que du statu quo. C'est une régression. Pour rattraper ne serait-ce que l'inflation, on serait à 30 euros. La proposition que nous faisons, c'est de nous mettre à la moyenne européenne qui serait de 50 euros. Il faut considérer ça un peu comme un investissement dans des grands travaux, c'est-à-dire que vous créez de l'embauche, vous créez de la structure et de la logistique finalement. La communauté s'y retrouverait largement dès la première année.
6 organisations de praticiens libéraux appellent à une nouvelle journée de fermeture des cabinets médicaux le 14 février. Inquiétude chez Pimki, 500 postes pourraient être supprimés selon les syndicats. L'enseigne de mode devrait être bientôt rachetée par un consortium d'entreprises. Nouveau coup dur pour le prêt-à-porter après le placement en redressement judiciaire de Koukaï, c'était ce mercredi. On va prendre tout de suite des nouvelles de Kylian Mbappé, forfait 3 semaines, blessé à la cuisse gauche. L'attaquant du PSG est très incertain pour le choc face au Bayern en Ligue des Champions le 14 février. En convalescence, il a quand même salué son coéquipier Raphaël Varane après l'annonce de sa retraite internationale. Merci Raph, le meilleur pour la suite. Raphaël Varane qui a pris donc sa retraite à 29 ans. Et puis cet événement hier sur RMC, hier soir pendant 2 heures, l'afterfoot était à la prison de la santé à Paris pour parler réinsertion par le sport ou écoute de la radio quand on est derrière les barreaux. C'est rarissime de pouvoir faire une émission en prison. Marion Dubreuil nous raconte.
Pas de terrain extérieur à la santé, alors c'est dans le gymnase en sous-sol que l'afterfoot improvise un studio entre les cages, sous les néons. Gilbert Bribois rencontre 3 détenus sélectionnés par l'administration pénitentiaire.
Moi je présente une émission qui s'appelle l'afterfoot sur RMC, vous connaissez ou pas? Vous allez venir avec nous autour de la table quoi. Et l'idée c'est que vous puissiez intervenir au milieu de la discussion comme vous voulez, parler foot.
Débat, quoi.
Pression quand même,
ouais. C'est une expérience déjà, moi j'ai jamais fait ça déjà. Voilà.
Plus de 60% des 1150 prisonniers sont inscrits au sport et ils n'ont accès au gymnase que 2 fois par mois. Alors le foot, c'est avant tout à la télé et à la radio qu'ils le vivent.
On accueille Abdoulaye, qui est détenu ici à la prison de la santé. Abdoulaye, bonsoir.
Bonsoir.
Quelle est ton équipe ?
Moi, je suis ni parisien ni marseillais, mais je suis pour Lyon.
Lyon ?
Tu dois souffrir.
Oh là là.
Le temps d'une émission, Abdoulaye, le détenu fan de l'OL, s'est retrouvé à côté du directeur de la prison de la santé, supporter de l'OM. Une parenthèse dans le quotidien carcéral.
Si vous avez raté l'after hier soir, vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur l'appli RMC.
Et c'est vivement recommandé cet after exceptionnel hier soir à la prison de la santé, à retrouver sur l'appli RMC, et c'était le journal de Marguerite Dumont. On vous retrouve tout à l'heure à 7h pour un prochain journal en direct sur RMC et RMC Story. On va retrouver Apolline, et évidemment Apolline de matin, ça démarre avec Apolline de Malherbe dans quelques minutes à la radio et à la télé, puisqu'on est en direct aussi sur RMC Story. Et puis vous avez d'ailleurs deux rendez-vous avec deux hommes avant 6h30, Emmanuel Lechypre qui va venir nous parler d'un marché automobile qui se porte très bien, celui des voitures anciennes. Mais oui, on va faire un tour en 205 avec Emmanuel Lechypre. On va aussi retrouver notre Story Sport avec Thibaut Texer dans 10 minutes à peu près. Mais tout de suite, Anaïs, on va aller faire les courses.
On va au supermarché. Les supermarchés accusés de ne pas jouer le jeu en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est ce que disent plusieurs ONG. On va en reparler. Vous verrez qu'ils sont accusés notamment de favoriser la surconsommation de viande et de produits laitiers.
Mais oui, les supermarchés sur le banc des accusés. Les supermarchés sont-ils mauvais pour la planète? On en parle avec Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. Il est avec nous là tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h10. Bon réveil à tous sur RMC et RMC Story.
L'invité de Charles Matin.
Notre invité ce matin, c'est vous, Olivier Dauvert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la grande distribution. Les rayons des supermarchés n'ont aucun secret pour vous. Et justement, les distributeurs sont dans le viseur des ONG autour des questions d'environnement.
La Fédération d'associations du réseau Action Climat publie un rapport qui accuse l'ensemble de la grande distribution d'être un frein à la lutte contre le réchauffement climatique, notamment en incitant à la surconsommation de viande et de produits laitiers.
Bon, Olivier Dauvert, on va être clair. Quand on lit ce rapport, on a l'impression que rentrer dans un supermarché, c'est tuer la planète, quoi.
Ah oui, quasiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais moi, j'appelle à une forme de relativité, parce que ce rapport, il oublie quand même quelque chose, c'est qu'un commerçant ne vend que ce qui s'achète. Et on l'oublie quand même très très souvent, le premier des responsables, et je l'assume totalement parce que je me mets dedans, je vous mets dedans, je nous mets tous dedans, eh bien le premier des responsables, c'est le consommateur. Est-ce que vous imaginez un magasin qui vendrait que des produits dont il pense qu'il faut les vendre pour une raison qui est louable, hein, en l'occurrence la planète, mais qui oublierait ce que le consommateur attend? Que je sache, personne ne vous oblige à acheter de la viande quand vous êtes chez Carrefour, chez Leclerc ou chez Auchan. Personne.
Oui, bon, mais alors c'est un
que
peu.
Que les enseignes en fassent pas assez, oui, bien sûr.
Voilà, mais c'est tout le problème. En fait, le rapport dit les enseignes ont tendance à nous orienter vers des produits mauvais pour nous et pour la planète, comme les nuggets, les burgers, les pizzas, alors qu'ils devraient, je cite le rapport, promouvoir une alimentation plus végétale, en particulier les légumes secs et les protéines végétales. En fait, on fait tout dans les rayons pour nous orienter vers les mauvais produits.
Ben, je suis désolé, on vous oriente vers ce que vous voulez acheter, Charles. Il faut quand même qu'à un moment, cette façon de toujours faire reporter la responsabilité sur des acteurs économiques, qu'ils soient distributeurs ou industriels d'ailleurs, peu importe, ou même agriculteurs dans leur pratique, il faut que le consommateur se regarde. Mince, nous avons, par nos petits gestes du quotidien, est-ce qu'on met ce midi dans l'assiette un steak ou des légumes ou du poisson, on a une responsabilité de dingue. On va arrêter à chaque fois de la faire supporter par quelqu'un d'autre. Regardez le cas par exemple très emblématique du Nutella. Problème soi-disant nutritionnel, soi-disant environnementaux. Je dis pas que c'est faux, mais en tous les cas, c'est des sujets posés. Mais personne ne vous oblige à acheter du Nutella. Et pourtant, c'est le produit qui se vend le plus.
Le consommateur achète aussi ce qui est pas cher, ce qui est en promotion, parce qu'il y a l'inflation, on ne peut pas l'oublier.
Ok, on reste sur le cas du Nutella et on va mettre des chiffres. Le Nutella, ça vaut deux fois plus cher au kilo que la confiture. Donc, votre argument de dire il achète ce qui est pas cher, c'est pas le bon, je suis désolé. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas drivé par le prix, bien sûr. Mais non, ce n'est pas ça l'argument. C'est ce que nous achetons, nous. Les enseignes vendent ce qu'on achète, bon sang de bon sang. Il faudrait quand même que...
Ces enseignes, elles vont avoir tendance à faire des promos sur des produits stars qui sont pas forcément bons pour la santé, alors qu'elles vont faire des grosses marges sur le bio, par exemple.
Bien sûr, mais le bio, par exemple, il est très intéressant. Vous avez 90% des Français qui achètent du bio au moins une fois par an. C'est le chiffre officiel de l'agence bio. Et le bio ne pèse pourtant que 5 à 6% du total de ce qu'on met dans nos assiettes. Pourquoi ? Ben parce que pour la majorité des consommateurs, on n'en achète qu'une fois de temps en temps. Alors que manifestement, on a bien trouvé le chemin des rayons, puisque 90% en achètent. Eh ben c'est parce que finalement, on n'achète pas de bio autant qu'on le devrait. Que je sache, il y a des rayons bio dans tous les rayons de la grande distribution.
Oui, mais est-ce que la grande distribution joue le jeu des grosses promos, des prix cassés, du prix coûtant sur le bio ? J'en suis pas certain, Olivier Dauvert.
Ben, moins, parce que le bio se vend moins que les autres produits. Mais si demain, par exemple, un magasin arrête de faire une promotion sur les côtes de porc, ou ou sur la côte de bœuf, pour prendre le sujet que pointe Action Climat. Et à juste titre, hein, notre consommation de viande, c'est un vrai problème. Ben, de toute façon, on va aller les acheter ailleurs. Mmh. On a vu des magasins qui ont arrêté de faire des promotions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Leur chiffre d'affaires a baissé.
Oui, donc c'est la réalité économique qui passe avant les enjeux climatiques. Mais le réseau Action Climat...
C'est la réalité de nos comportements. Non, non, mais Charles. C'est la réalité de nos comportements.
Oui, de nos comportements.
Oui. Les distributeurs ont une responsabilité. Il ne s'agit pas de dire qu'ils n'en ont pas. Si, évidemment, ils mettaient encore plus en avant les lentilles et les pois chiches, on en achèterait plus. Ça, je suis bien d'accord.
Voilà. Mais Olivier Dauvert, justement, sur nos comportements, le réseau Action Climat, dans son rapport, fait des propositions. Propose, par exemple, un éco-score ou un planète score qu'on mettrait sur les produits qui nous permettrait de savoir si c'est bon pour la planète ou pas ce qu'on achète.
Ils ont mille fois raison de donner des indications aux consommateurs. Il faut en donner dans deux directions. Moi, depuis 3 à 4 ans, je milite pour quelque chose qui s'appelle Balance ton origine, pour obliger les industriels et les distributeurs à mettre noir sur blanc l'origine des matières premières qu'ils mettent dans leurs produits. Pourquoi ? Parce que si je vous dis, par exemple, Charles, que le poulet qui est dans votre plat cuisiné, il vient de Pologne ou du Brésil ou de France, vous allez en déduire qu'il n'a pas la même empreinte environnementale. Parce que ça, vous le comprenez facilement. L'origine, c'est le premier levier d'une transformation de nos comportements d'achat, parce qu'on peut avoir un effet. Et puis après, parce qu'il n'y a pas que l'empreinte carbone, il y a la biodiversité, il y a la préservation du vivant en général, en fait. Eh bien oui, des scores comme l'éco-score ou le planète score, mais ça, pour le coup, de la même manière que le Nutri-score avait été plutôt voulu par les distributeurs et pas trop par les industriels parce qu'ils se trouvaient stigmatisés. Aujourd'hui, les industriels, ils sont pas tous chauds, vous savez, pour mettre un planet score ou un éco score. Et là, il y a qu'une solution, c'est la volonté politique. Il faut que le pouvoir politique impose ce genre de repère pour qu'ensuite le consommateur achète en connaissance de cause. Si l'on veut modifier nos comportements de consommation, c'est bien parce qu'on nous donne des raisons de le faire. Et tant qu'on ne nous les donnera pas en nous informant, ben on aura toujours du mal. Interroger des consommateurs dans la rue, vous allez voir le degré d'ignorance qu'il y a.
Alors, Olivier Dauvert, en ce moment, l'urgence pour les grands distributeurs, c'est pas vraiment la planète, évidemment, c'est l'inflation. Le patron de Système U nous a dévoilé hier, hein, sur RMC, son panier de 150 produits à prix coûtant pour une durée indéterminée. D'autres enseignes font des annonces en ce moment dans le même sens. En fait, ils n'ont pas attendu le gouvernement, qui, lui, nous a promis un panier anti-inflation qu'on attend toujours, qui devrait voir le jour d'ici le mois de mars. C'est ça, l'urgence du moment, c'est les paniers anti-inflation, Olivier Dauvert.
Ben, vous savez qu'entre la fin du mois et la fin du monde, malheureusement, pour celui qui n'a pas les moyens d'attendre la fin du mois, ben, c'est quand même ça. Et donc là, il faut être très très terre à terre. Et donc les enseignes, pour le coup, ça fait effectivement très très longtemps qu'elles sont dans la compétition et la concurrence permanente. D'ailleurs, je note que depuis des années, on leur reproche très très régulièrement de casser trop les prix, de vendre pas assez cher. Et donc aujourd'hui, il faudrait quand même être malvenu pour leur reprocher de pas assez se faire la concurrence.
Juste Olivier Dauvert, sur ces paniers anti-inflation, là, on va avoir des annonces dans tous les sens, dans toutes les enseignes. Dans les jours qui viennent, est-ce que c'est vraiment des bons plans ?
Bah, en tous les cas, ça fait pas de mal de mettre plus de concurrence. Voilà, est-ce que c'est suffisant pour ceux qui sont victimes de l'inflation ? Peut-être pas, mais est-ce que on a des distributeurs qui se tirent la bourre, il faut quand même être malhonnête intellectuellement pour dire que non. Parce que d'ailleurs, encore une fois, je vous le redis, pendant des années et des années, on leur a reproché de trop se tirer la bourre. Et donc aujourd'hui, on les suspecterait de pas le faire assez. Moi, je trouve qu'on manque quand même singulièrement de raison et d'analyse dans ce sujet-là. Donc soit ils sont trop durs entre eux, soit ils le sont pas assez. Mais ça peut pas être les deux, Charles, voyons.
Merci donc, Olivier Dauvert.
Oui, ils se tirent déjà la bourre.
Merci aux spécialistes de la grande distribution d'être venu ce matin nous dire que oui, il ne faut pas forcément dénoncer systématiquement la grande distribution sur ces questions environnementales. C'est le consommateur d'abord, c'est la carte bleue en fait, hein, qui a le pouvoir pour faire bouger les choses sur les questions environnementales dans les rayons des supermarchés. Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, merci de nous avoir éclairé de si bonne heure sur RMC et RMC Story. À 6h18, Anaïs, je te propose d'aller faire un petit tour en deux chevaux.
Allez, génial, j'adore.
C'est Emmanuel Le Chip qui conduit.
Ah.
Salut Emmanuel.
Pas sûr, deux chevaux. Une petite balade en 205 GTI, ça vous plairait pas
j'adore,
non plus?
Ça rappelle les souvenirs.
Ah oui, moi, ça me plairait particulièrement. La 205 de Emmanuel Le Chip.
Au choix, Golf Cabriolet, deux chevaux ou 205 GTI, comme vous voulez.
Allez, la balade de Emmanuel Le Chip dans le Chypre du jour. On va tout vous expliquer sur les voitures anciennes dans un instant. Et puis il y aura la Story Sport avec Thibaut Texer.
Bonjour.
La Story du jour. Salut Thibaut.
Bonjour à tous. La définition de la résilience, portrait de Tiffany Hugo Marchand.
A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna. Charles Magnin.
À 6h20 sur RMC, Emmanuel Le Chypre passe les rapports.
Le Chypre du jour.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Oui, on est tous excités autour de ce plateau parce qu'Emmanuel va nous parler voitures anciennes avec mais le chiffre du jour. Oui. Ce chiffre, c'est 8000.
Absolument. Vous savez que c'est le salon rétromobile en ce moment jusqu'au 5 février à Paris. L'occasion de faire le point donc sur le marché des voitures anciennes. Et sur ce marché, la reine incontestée, c'est la 205 Peugeot qui fête ses 40 ans puisqu'elle a été le modèle le plus vendu en France en 2022 avec plus de 8000 transactions. C'est 15% de plus qu'en 2021, nous dit le cabinet NGC Data. Alors logiquement aussi, les prix ont atteint des sommets. Alors c'est vrai pour la superstar, la 205 GTI, le modèle sportif de la gamme. Alors, c'était ma première voiture, Charles.
Oh, c'était
très mollo. Absolument. Vous parliez de rapport. Je vous dis que le.
Oh bah. Passage... Non, dis pas trop.
Moi, je n'y connais rien, mais je peux vous dire que quand vous passiez de deuxième en troisième, ça procurait des sensations.
On vibre.
Incomparable.
Oh là là.
Voilà. Et ben oui, mais la 205 GTI, c'est extrêmement cher aujourd'hui. 25 000 euros pour un modèle en bon état.
Non.
25 000 euros pour un modèle en bon état, absolument. Et donc, ce sont les modèles de base de la 205 qui connaissent le succès le plus grand. L'autre star, évidemment, c'est la 2 chevaux. 6 000 ventes en 2022 devant la Renault 4, la Volkswagen Golf et la Renault 5. Si vous aimez les cabriolets, c'est vrai que c'est la Golf cabriolet qui reste le modèle phare.
J'ai une 2 chevaux décapotable de famille, qu'on sort tous les étés.
Ah, c'est magnifique.
C'est incroyable. C'est une galère au contrôle technique.
Oh, le crâneur.
Ouais. Alors justement, on va en parler du contrôle.
Ah bah oui, parce que le marché de la voiture ancienne se porte bien.
Alors oui, c'est vrai que les ventes ont progressé de 3% en 2022, presque 100 000 véhicules vendus, mais sur ces voitures anciennes, 30% seulement ont été immatriculés avec une carte grise de collection. C'est un statut extrêmement avantageux qui permet notamment d'accéder aux zones à faible émission ou de faire un contrôle technique que tous les 5 ans. Mais les conditions sont très restrictives puisque les modèles doivent être tout à fait d'origine et puis ça demande des démarches administratives un peu fastidieuse, donc ça décourage pas mal de propriétaires, mais quand même c'est assez intéressant. Notamment les ZFE avec une voiture de plus de 40 ans.
Ouais, c'est content. Emmanuel, le Chypre pour le Chypre du jour. Et on salue évidemment toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont partagé le siège passager de la 205 GTI d'Emmanuel il y a quelques années. Oui, voilà, on voit quelques souvenirs qui remontent.
Ils ont survécu, je crois.
Oui, personne ne s'en est plaint, en tout cas jusqu'à présent. Il est 6h22, la Story Sport, Thibaut Texer.
La Story Sport.
Thibaut, ce matin, tu nous présentes Tiffany Huot-Marchand, jeune patineuse de vitesse qui se bat pour retrouver la compétition après un terrible accident.
Le 9 octobre dernier aux Pays-Bas, la jeune Française s'élance sur la patinoire d'Inraven. Une compétition comme une autre, mais ce jour-là, sa vie bascule.
C'était une compétition qui servait de sélection pour les deux premières manches de Coupe du Monde. J'ai fait un dépassement à l'extérieur. Une adversaire m'a involontairement touché et en arrivant dans les protections, ma tête a heurté violemment mes genoux.
Lancée à plus de 40 km/h, la jeune patineuse de 28 ans se fracture la cervicale 5. Reliée au souffle, elle est en état de choc.
J'ai pas eu de douleur et c'était bien le problème parce que je sentais plus du tout mon corps, que ce soit membre inférieur mais aussi membre supérieur. Je sentais juste mes yeux et j'étais totalement paralysée.
Incapable de bouger, elle est transportée aux urgences à l'hôpital. 3 heures après sa chute, elle est opérée. Et juste avant l'anesthésiste, le médecin lui glisse un mot.
Il m'a regardé dans les yeux et il m'a juste dit « Tu remarcheras probablement plus jamais ». Et je me suis mise à hurler et l'anesthésiste est arrivé et ils m'ont endormie là-dessus.
Une vie brisée en un instant, mais la jeune femme refuse de céder à la fatalité et combattre le destin qui lui était dévolu.
J'ai enregistré une vidéo 3 jours après l'accident où je me jure à moi-même de tout faire pour remarcher, recourir et repatiner.
À définition même de l'abnégation, Tiffany fait ses premiers pas 10 jours seulement après son accident. À force de courage et de travail, la jeune femme a pu reprendre la course à pied. Elle est toujours hospitalisée à ce jour, mais elle devrait rentrer chez elle bientôt. Et si elle sait que le combat n'est pas terminé, elle nourrit un rêve.
Mon objectif numéro un, c'est de remettre des patins et d'aller sur la glace. Pas pour faire du loisir, pour retrouver mon niveau et pour préparer au mieux Milan 2026.
Avant ça, la jeune femme a un autre rêve, courir le marathon aux Jeux de Paris en 2024, se relever et rechausser les patins, glissés sur un espoir comme une ligne de mire. Si la résilience avait un visage, ce pourrait être celui de Tiffany Huot-Marchand.
Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf avancer.
Résilience avec Tiffany Huot-Marchand qu'on va suivre, évidemment. Très belle histoire, très belle story.
On espère la voir au Jeu de Milan 2026.
Évidemment, et très belle story racontée ce matin par Thibaut Texer sur RMC. C'est votre rendez-vous sport tous les matins, juste avant 6h30, juste avant Apolline Matin. Mais oui, Apolline de Malherbe arrive dans un instant sur RMC. et RMC Story à la télé, le canal 23 de la TNT pour suivre Apolline Matin et tous ses invités. Ça démarre tout de suite.